Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 1er novembre 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 2 novembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. En ce lendemain d'Halloween, on dit plus tout ça maintenant, on dit lendemain d'Halloween, c'est Garello qui a dit ça.
Quelle horreur! Ah,
c'est très bien. Il faut trouver un truc pour Noël maintenant, on dira plus le jour de Noël, on dira le lendemain, je sais pas quoi, on trouvera un machin de la fête des cabanes, ou je sais pas, un truc, faudra trouver, enfin, de toute façon. Donc, en ce lendemain d'Halloween, je reçois Bruno Maigret, bonsoir Bruno Maigret.
Bonsoir.
Qui nous présentera, enfin avec lequel on parlera du programme du mouvement national révolutionnaire. Oh, pardon.
République.
Excusez-moi, monsieur Maigret. Je l'ai fait sans le faire exprès. Je reçois également Daniel Raffard de Brienne, auteur de La Bible trahie, dont on a déjà brièvement parlé, mais on va y revenir d'une façon...
Jamais assez.
Jamais assez. On ne parle jamais assez de vos livres. Pas plus que ceux d'Henri de Fersen qui est là, d'ailleurs, et qui nous parlera d'une façon originale de son prochain livre, La posture antiraciste. Je dis original parce qu'en général, on présente à ce micro des livres publiés. Et on dit aux gens, achetez-les, ils sont intéressants. Tandis que là, on va vous dire, il est intéressant, donc aidez à le publier en prenant une souscription. Voilà, on vous expliquera ça tout à l'heure. Il faut 200 souscripteurs à Henri pour terminer son bouquin « L'imposture antiraciste » qui a reçu l'aval des plus hautes personnalités qui l'ont lu, des personnalités de notre famille qui par conséquent sont fauchées et ne peuvent pas financer son édition. Ça, on a bien compris. Quant à le faire éditer ailleurs, ça, c'est une autre paire de manches. Et ensuite, je recevrai... Jean-Louis Philippe. Jean-Louis Philippe, j'avais déjà reçu à ce micro. C'est un voyant extra-glucide. Et je l'ai... C'est un garçon extrêmement sympathique que j'ai revu depuis et à qui j'ai fait une proposition et qu'il a accepté. Alors, ça valait le coup d'essayer. Je lui ai demandé de présenter un certain nombre de prédictions sérieuses, je veux dire, solides, pas dire s'il pleut, ça va être mouillé, ou s'il n'y a pas trop de vent, il n'y aura pas de tempête, etc. Non, des prédictions, disons voilà ce qui va se passer. Alors, par exemple, je lui poserai la question, qui va être élu, Bush ou Gore ? Et alors, il me donnera une réponse. Comme ça, à la fin, il donnera son numéro de téléphone, et au bout d'un certain temps, quand vous aurez vu s'il est fiable ou pas, ou vous l'appellerez, ou vous ne l'appellerez pas. Si vous l'appelez, s'il n'est pas fiable, vous pourrez aussi l'appeler pour lui dire où les cornes. Hein, voilà, c'est un jeu. Je trouve ça bien de sa part de se prêter à ce jeu. Et en deuxième partie, je recevrai François Plantet, le docteur François Plantet et Nicolas Bonnal. Alors, le docteur François Plantet n'interviendra pas comme médecin, il interviendra comme comment dire, comme, j'ai envie de dire spécialiste, mais spécialiste de quoi ? Comme hébraïsant, lecteur de la Bible.
Hébraïsant distingué.
Hébraïsant distingué, voilà. Toujours des hébraïsants distingués. Lecteur de la Bible, etc. Et on parlera d'Internet, la question du réseau, parce que la première fois qu'on a parlé de ça avec Bonnal, il y a quelques semaines, ça avait beaucoup intéressé, et je pense qu'on peut y revenir sans ennuyer quiconque. Et puis d'abord, comme c'est en deuxième partie, ceux qui s'ennuient pourront regarder la télévision, on sera probablement beaucoup moins ennuyeux. Donc je vous disais qu'aujourd'hui, c'est le lendemain d'Halloween, et j'ai remarqué, je fais une petite évocation rapide de ce qui s'est passé, que l'Église de France, pour une fois, a réagi, en disant que ça commençait à bien faire. Alors, c'est très très bien de réagir, mais ce que j'ai remarqué à l'occasion de cette célébration grotesque qui nous vient, on ne sait d'où d'ailleurs, parce que quand on essaye de nous faire croire maintenant que c'est une vieille fête bretonne ou alsacienne, tout pour voir, ça n'a rien à voir, pour autant que je sache, les Bretons et les Alsaciens ne se sont jamais promenés avec des citrouilles sur la tête. Donc, l'histoire d'Halloween est en train de c'est une opération commerciale, et pour une fois, l'Église a réagi. Bon, pourquoi ? Parce que cette fête se substitue à la Toussaint. Mais ce qu'on remarque à l'occasion de cette opération commerciale, c'est que les Français, la plupart des Français que j'ai entendus, ne savent absolument pas ce que c'est que la Toussaint. Ils confondent la Toussaint avec la fête des morts. Donc ils croient que la Toussaint est une fête triste. Et j'entendais, par exemple, un crétin audiovisuel dire l'autre jour, répondre à une auditrice au téléphone qui lui parlait de la fête de la Toussaint, et lui dit « Ah oui, la fête, enfin la fête c'est quelque chose de gay, tandis que la Toussaint, on ne peut pas dire que ça soit quelque chose de gay. » Ce crétin audiovisuel se vantait il n'y a pas si longtemps en disant « Nous autres les intellectuels, puisque moi je suis licencié en histoire, vous voyez à qui je fais allusion, mon cher Henri. » Il porte le nom de tout le monde, quoi, pratiquement. Il s'appelle pas Dupont, mais c'est... Bon. Et donc, alors ce brave crétin audiovisuel disait « Non, la Toussaint, c'est une fête extrêmement triste. » Donc, il confondait lui aussi avec la fête des morts. Alors, je crois que si l'Église de France voulait vraiment réagir contre Halloween, elle ferait tout simplement une chose simple. Enfin, on peut pas faire plus simple. Elle organiserait, à l'occasion de la fête de la Toussaint, une énorme fête en France, en disant par exemple à tous les catholiques, vous avez forcément un saint favori, tout le monde a son saint favori, ou a des saints favoris. Moi par exemple, j'aime beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'aime bien Saint Expédite parce qu'il est pratique, utile et rapide, j'aime bien Saint Antoine et quelques autres. Et ça serait très simple de dire aux catholiques, promenez-vous avec soit un badge, soit un portrait de votre saint, organisez des manifestations dans la rue, faites-vous, pourquoi pas, un costume de Saint-Antoine, si vous aimez bien Saint-Antoine, c'est facile, vous prenez un lys et un bébé en celluloïde que vous mettez sur votre bras, offrez des roses pour Sainte-Thérèse, voilà, faites un mouvement, quelque chose, venez à la messe, on va tous chanter, on va montrer que c'est une fête joyeuse, et on va montrer que les chrétiens existent encore en France. Ils pourraient faire ça, les évêques, au lieu de gueuler contre le Gouin, dont tout le monde se fout d'ailleurs, ces pauvres gosses qu'on voit avec leur citrouille en carton sur la tête. J'en voyais un hier qui était avec le masque de Scream, qui est un, vous savez, l'espèce de fantôme squelettique, etc. Et je me disais, s'il s'approche, je vais lui envoyer une paire de baffes terribles, et après je vais m'excuser en disant, je suis désolé, t'étais tellement bien déguisé que j'ai cru que t'étais un vrai. Et donc je me suis défendu, cette bête. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Gifler les enfants déguisés en monstres d'Halloween, et promenez-vous avec des portraits de vos saints préférés, et ça, au moins, c'est de l'agitprop intéressante. J'aurais salué quand même la victoire de Robert Rue dans le procès. C'est quand même formidable, cette justice française. ils ont découvert que la présidente du tribunal qui était chargée de condamner Robert Rue, le chef de la fameuse bande de voleurs qu'on appelle le Parti communiste en France, eh bien cette femme-là, elle avait déjà jugé cette affaire, et elle, dans une affaire parallèle, et elle avait déjà acquis la certitude que c'était une bande de voleurs. Donc comme on reconvoque le chef de la bande devant le tribunal, et que c'est la même personne qui va condamner, on dit ah non, c'est pas possible, comme elle a déjà compris une fois, il faut leur laisser une chance aux communistes, peut-être que la deuxième fois, le juge ne comprendra pas. Donc on va trouver un juge moins intelligent que la première, et on vire la première. Alors, ma première réaction, ça a été la colère, enfin la colère, même plus la colère, mais les bras vous en tombent des mains, comme disait la concierge. Mais la deuxième réaction, c'est que j'ai été très content, parce que moi j'ai été condamné, je crois, à peu près une dizaine de fois pour divers délits, notamment pour injure raciale, incitation à la haine raciale, négation de crimes contre l'humanité, enfin des choses absolument abominables, abominables. Mais il y a deux personnes qui m'ont condamné, c'est M. Montfort et Mme Rachmadou. C'est pas original d'ailleurs, parce que toute la presse de droite a été condamnée par Montfort et Rachmadou, donc je n'ai aucun titre de gloire particulier. Mais ce que je me dis, c'est que la prochaine fois que je vais comparaître contre Montfort, enfin, devant Montfort, pardon, monsieur Montfort, je vais dire à mon avocat, il faut le récuser, puisqu'il m'a déjà condamné quatre fois. Donc il le sait, lui, que je suis un raciste invétéré. Peut-être qu'il faudrait trouver un juge qui n'est pas au courant, et qui, n'étant pas au courant, ne va pas s'en apercevoir, il va croire que je suis un homme normal. Hein? Donc voilà, on va essayer ça. Je sais pas, ça marchera. En tout cas, on rigolera 5 minutes. Le plus dur, c'est de trouver un avocat qui accepte de récuser. Parce que quand même, chez les Robins, il y a un petit peu de... Enfin, on s'aime bien, on est entre des gens de robe. On est quand même dans le milieu. Alors, quand on leur dit, vous allez récuser ce magistrat parce qu'il a une tronche qui me revient pas, ils vous disent, oui, mais après vous êtes un client à 10 000 balles, c'est pas... Mais après vous, je comparaîtrai peut-être devant lui pour un client à 100 000 balles. Et il m'en voudra de l'avoir récusé. Donc, je préfère ne pas le récuser. Et l'avocat se récuse lui-même à ce moment-là. Vous vous retrouvez sans avocat. Ou avec un avocat commis d'office, qui est une chose que je vous recommande. Si vous aimez la prison... Faites-vous défendre par l'avocat commis d'office, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de l'actualité. La crise en Palestine, j'en parle plus, parce que dès que je dis quelque chose, on me dit que je suis soit antisémite, enfin je suis forcément antisémite, parce que ou je suis contre les Arabes ou je suis contre les Juifs. C'est ça le problème, c'est que quoi que vous disiez dans cette histoire, vous êtes antisémite. Ça c'est gagné à tous les coups. C'est vrai. Alors il ne faut pas en parler, donc j'en parlerai pas. Voilà. Mes commentaires, mon petit Henri.
Oui, juste un petit commentaire sur l'affaire U. C'est normal quand on ressemble à prof que le tribunal vous considère comme Blanche-Neige.
Ah, c'est joli, ça. C'est mignon. C'est vrai qu'il ressemble à un nain de jardin.
Un stalinin de jardin.
Un stalinin de jardin. Alors, je l'ai appelé mon petit Henri parce que j'ai découvert tout à l'heure que j'étais déjà directeur du journal, qu'il n'était pas encore né. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est effrayant de voir à quel point on est vieux. Monsieur Raffard de Brienne, pas de commentaires sur l'actualité.
Elle en mérite des commentaires.
Non, je pense que c'est à vous de voir. Comme vous avez fait le voyage de Lille, je pensais que vous auriez peut-être quelque chose à dire sur madame...
Mais écoutez, oui, l'autre jour, je suis parti pour Marseille, et j'étais empoisonné par l'arrivée de Jospin.
Alors, à Lille ou
oui, à Lille, toutes les gares étaient fermées, c'était l'horreur. Alors si monsieur Jospin était gentil, qu'il aille inaugurer madame Aubry un peu plus loin, vous voyez.
Vous êtes prié d'aller faire ça ailleurs. Mais d'ailleurs, ce que je trouve formidable, c'est qu'on nous publie des sondages où on nous dit... Jospin, Chirac, ils ont 58% de cote de popularité. 60%, 65%. Les Français les adorent et tout. Mais dès qu'ils vont quelque part, il faut mobiliser 350 000 gendarmes, il faut immobiliser toutes les voitures dans un rayon de 27 km, il faut paralyser la circulation de tous les trains, de tous les avions et tout, pour qu'ils puissent circuler en sécurité.
C'est la moindre vache.
Je suis sûr que si on faisait un sondage de popularité sur mon personnage, j'aurais du mal à obtenir 1% de popularité. Ça m'empêche pas de me balader tranquillement dans le métro, quand même. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux être haï que adoré par ce peuple? Ils ont peut-être peur que les Français n'étouffent Jospin et Chirac sous leurs embrassades. Hein? Et Bruno Maigret, vous qui avez connu et qui connaissez d'ailleurs cet étrange état de célébrité et de célébrités un peu, comment dirais-je, ténébreuse comme ça, parce que vous êtes quand même l'incarnation, une des incarnations de la bête immonde. Donc, quand vous promenez dans la rue, comment ça se passe? Vous avez des lazis, des...
Non,
néo-lazis?
Non, pas du tout. Je me promène en effet dans la rue comme tout un chacun. Et les principales manifestations publiques que j'ai sont plutôt des manifestations de sympathie, il faut le dire. Les manifestations d'opposition, d'hostilité, souvent violentes, je les ai à l'occasion de manifestations publiques, lorsque nos adversaires organisent, comme c'est leur habitude, des contre-manifestations, qui font d'ailleurs l'objet de toute l'attention des médias, ce qui nous permet de faire parler de nous en contrepoint, n'est-ce pas? Et puis, parfois, quand je tombe sur des bandes de jeunes... même quand je vais porter des vêtements chez le teinturier ou lorsque je m'arrête dans une aire d'autoroute, là, si je tombe sur une bande de jeunes, en général, ça se passe pas bien.
Ça se passe pas bien. Il y a des moments où vous êtes un peu dans la situation qu'on connaît actuellement au Proche-Orient.
Oui.
Vous êtes la cible de l'intifada.
Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je pense que certains qui prônent l'immigration et la politique immigrationniste dans notre pays, qui sont tout à fait d'accord avec l'islamisation de la France, devraient bien réfléchir à ce qu'ils font. Parce que, je pense, pour être clair, aux organisations juives en France, qui sont tout à fait sur cette ligne, et qui ne se rendent pas compte que cette politique, cette attitude, eh bien, va créer en France des problèmes dont ils seront sans doute les premières victimes.
Non, mais je pense aussi que là, il y a une espèce de raisonnement qui leur fait dire qu'après tout, il n'y a pas raison qu'il y ait qu'eux qui en prennent plein la pipe là-bas, et que si on pouvait connaître le même sort en France, ça nous éveillerait peut-être, ça éveillerait peut-être les Français à la douloureuse situation des Israéliens en Palestine. C'est un bon calcul, ça, finalement.
Enfin, ça, je pense que de toute façon, cette politique migratoire est une politique absolument suicidaire, puisque c'est l'importation de tous les conflits du monde sur notre sol. Et une fois de plus, on en a aujourd'hui la preuve.
Avec une différence quand même qu'on peut pas passer sous silence, c'est que, sauf erreur de ma part, je suis pas très fort en histoire et en géographie, mais je crois me rappeler que les Palestiniens sont pas des immigrés en Palestine. Je dis bien, sauf erreur de ma part. Tandis qu'en France, les Arabes sont pas dans la même situation. Enfin, il me semble. Hein. Je veux pas m'avancer, mais je crois me rappeler que c'est quelque chose comme ça, la différence. En tout cas, vous n'êtes pas venu pour parler de ça précisément. Vous êtes venu parce que vous venez publier le programme du MNR. Qui est, alors, première chose, première nouveauté, il est vendu en kiosque.
Oui. Oui, le programme du MNR a été imprimé sous forme d'un album. Parce que nous non plus, nous ne trouvons pas d'éditeurs. Ça se passe en France, comme l'expliquait une fois Georges Marchais il y a bien longtemps, lorsqu'on l'interrogeait sur la liberté d'édition en URSS. Et le journaliste lui demandait, est-ce que n'importe qui peut se faire éditer en URSS? Et Marchais répondait, oui, bien sûr, à condition de trouver un éditeur.
Ouais. C'est ça.
Alors, dans la mesure...
Maintenant, c'est en France que ça se passe.
Voilà, exactement. On est totalement libre en France dès lors qu'on trouve un éditeur. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. Alors, nous avons contourné l'obstacle et nous avons publié notre programme sous forme d'album, ce qui permet de le vendre par le biais des NMPP dans les kiosques à journaux, les maisons de la presse, les marchands de journaux. Et il est actuellement disponible pour le prix de 40 francs. Ça s'appelle « Pour que vive la France » par Bruno Maigret et le MNR. Donc, ceux qui veulent en prendre connaissance, ils peuvent l'acheter relativement facilement, à condition de le demander, parce qu'il n'est pas toujours exposé, évidemment, en tête de gondole.
Je m'en dirai tant. Alors, la première question, vous venez d'y répondre partiellement, puisque vous dites par Bruno Maigret et le MNR, c'était la question de l'élaboration de ce programme.
Non,
comment ça s'est passé, techniquement? Vous avez...
Alors, techniquement, ça a été quelque chose, je crois, d'assez neuf. Dans nos milieux, c'est-à-dire que c'est une élaboration tout à fait collective, puisque nous avons commencé par envoyer un questionnaire à tous les adhérents du mouvement. Nous avons constitué 17 commissions de travail qui ont épluché les réponses de nos adhérents, qui ont rédigé des synthèses. Tout cela a été ensuite regroupé par un comité de direction.
Ouais, c'est les méthodes du centralisme démocratique.
Un comité de rédaction, et tout cela a été soumis à notre comité national qui ne s'est pas limité à l'approuver, qui a commencé par l'amender. Il y a eu plus de 70 amendements. Et ensuite, qui a été approuvé in fine à l'unanimité, moins une voix. Alors je voudrais souligner...
C'est laquelle alors? C'est la vôtre probablement.
C'est non, c'est pas, la, c'est pas la mienne, ça c'est le secret du vote, secret des délibérations.
Une question, quand... une question un peu délicate, mais je crois que si vous y répondez, ça intéressera... Vous nous avez dit qu'il y avait eu des amendements, donc il y a eu des propositions qui venaient de la base oui. et qui ont été écartées ou modifiées.
Oui, il y a eu à peu près 70 amendements. Certains ont été approuvés, donc intégrés dans le texte, d'autres ont été rejetés, absolument.
Alors, ça porte sur quoi? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de choses qui a été proposé, qui n'a pas été considéré comme correspondant à la ligne du mouvement national républicain?
Ça, il y a des questions... C'était sur des questions qui n'étaient pas, pour l'essentiel, des questions majeures, parce qu'il y a justement une relative cohérence idéologique, cohérence politique, hein, dans nos rangs, c'est ce qui fait notre force. Mais par exemple, nous proposons dans ce programme une réforme territoriale de grande envergure, puisque nous proposons la suppression des 100 départements et des 20 régions pour y substituer une quarantaine de provinces. Enfin, sur la question de la
réforme... Ça, c'est sympathique au moins.
Voilà, et les provinces qui seront enracinées dans nos identités historiques. La Normandie sera réunifiée, la Bretagne sera reconstituée, la Provence sera rétablie, le comté de Nice aussi, le Dauphiné, la Savoie, que sais-je encore.
Alors, et sur ça, ça a rencontré une opposition.
Non, tout le monde était d'accord
tout
là-dessus.
Tout le monde était d'accord
là-dessus.
Ça pose quand même un problème,
ça. Tout le monde était d'accord là-dessus. Certains voulaient aller plus loin sur le terrain de la décentralisation,
faire des pays,
peut-être
alors.
Aller un peu au-delà de ce que l'unité national autorisait, et ça n'a pas été accepté, par exemple.
Donc, vous voulez dire, par exemple, la réintégration des langues régionales ou des choses comme ça, c'est une question qui a été élevée
Oui, la question des langues régionales a été abordée. Nous avons réaffirmé clairement la nécessité de la langue française comme langue nationale et unique langue susceptible d'être enseignée de façon obligatoire sur l'ensemble du territoire, mais nous exprimons notre accord sur une valorisation des langues régionales.
Alors, question, parce que ça intéresse beaucoup les auditeurs de Radio Courtoisie, qui est quand même oui. la radio de la francophonie. Vous nous dites, donc, langue officielle obligatoire, le français.
Le français.
Langue culturelle acceptée et enseignée.
Acceptée et valorisée, mais de façon facultative pour ceux qui le souhaitent, les langues régionales.
Alors il y a la question, maintenant, en France, dans la France plurielle, multiculturelle, multiethnique, multiraciale, des langues minoritaires. C'est-à-dire, est-ce que ça a été évoqué, cette question de l'enseignement des langues minoritaires?
Non, ça, il n'en est pas question. Nous sommes en France et nous entendons que la France reste française avec sa diversité, mais avec ses traditions. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'au-delà du terme national qui est au premier rang de nos objectifs, de nos impératifs, de nos préoccupations, c'est en réalité un attachement à notre identité nationale et française d'abord, mais aussi à nos identités provinciales, de terroir, et aussi d'ailleurs à notre identité européenne et chrétienne. Donc c'est tout cet ensemble que nous entendons promouvoir et défendre, et là-dedans, je suis désolé pour les tenants du mondialisme et du grand melting pot planétaire, mais dans tout cela, il n'y a pas de place pour la culture extra-européenne et extra-française chez nous. Ces gens-là ont leur place ailleurs.
Chez eux, chez eux. Pourquoi pas? C'est quand même, on n'est jamais mieux que chez soi. On vient un petit chez soi qu'un grand chez les autres, comme je disais. Alors, pour pas sortir vraiment du sujet, est-ce que sur la question de l'immigration, il y a des propositions novatrices, ou est-ce que vous restez sur les positions que vous, Bruno Maigret, vous avez toujours soutenues?
Non, sur la question de l'immigration, on ne peut pas dire qu'il y a des grandes nouveautés. Et pour cause, c'est un problème majeur. Nous avons mis en place depuis longtemps une politique pour y répondre. Cette politique, nous entendons l'affirmer avec beaucoup de force. C'est donc la politique de retour des immigrés dans leur pays d'origine. C'est une politique de préférence nationale. Et c'est une politique de retour au droit du sol. C'est au droit du sang, pardon. C'est-à-dire à une réforme du code de la nationalité fondée sur la filiation est français ceux qui naissent de parents français, et avec la possibilité, bien sûr, de la naturalisation, mais qui comporte rien d'automatique et qui nécessite, bien sûr, que les conditions très strictes soient réunies pour accepter un étranger dans la communauté nationale.
Et la question de la double nationalité, par exemple, vous avez...
Alors, la double nationalité, à nos yeux, n'est pas acceptable. Et par conséquent, ceux qui, dans le processus de naturalisation, souhaitent devenir français, doivent accepter de renoncer à leur autre nationalité. Il est complètement absurde que nous continuions comme aujourd'hui avec des soi-disant français qui vont voter pour le président de la République algérienne dans les consulats algériens, en exhibant leur carte d'identité nationale, pratiquement, pour aller voter là-bas.
Et en ce qui concerne l'Europe, quelle est la position aujourd'hui du MNR? Est-ce que vous êtes européen, européiste, europophile,
europhobe? Alors, je crois que ce qui est par contre très nouveau dans ce programme, c'est que c'est un programme pour changer la réalité. C'est pas un programme de retour à un passé mythique ou illusoire. C'est-à-dire que nous sommes préoccupés de définir chaque fois une alternative crédible au politiquement correct. Alors, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour le nouvel ordre mondial, c'est vrai pour le mondialisme économique. Et pour l'Europe, nous proposons une alternative. Nous ne disons pas il faut sortir de cette Europe-là, point final, replions-nous derrière nos frontières de façon frileuse. Non, nous sommes d'accord pour une certaine organisation de l'Europe, car d'abord l'Europe n'est pas une construction à réaliser, l'Europe est une réalité multimillénaire. Donc la seule question qui se pose est de savoir s'il faut ou non organiser les nations européennes. Nous sommes d'accord dans le cadre de ce que nous appelons l'Europe des nations, qui lui n'est pas un mot nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que nous lui donnons un contenu et nous définissons dans ce programme l'organisation concrète que nous proposons à cette Europe des nations, qui est une communauté de nations souveraines qui s'organise en des coopérations librement consenties qui leur permettent de mieux défendre leurs intérêts, de mieux défendre leur identité commune et de retrouver la puissance qu'elles ont perdue. Ce qui nous mène d'ailleurs sur certains sujets beaucoup plus loin paradoxalement que les européistes actuels. Par exemple, nous sommes partisans de dissoudre l'OTAN et de créer en lieu et place de l'OTAN une alliance militaire européenne qui ne mettrait pas là non plus en cause les souverainetés des États, les armées nationales resteraient ce qu'elles sont, mais permettrait, dans le cadre de cette alliance, comme on en a connu pendant la Première Guerre mondiale par exemple, de redonner à l'Europe, à la communauté des nations d'Europe, la puissance qu'elles ont aujourd'hui perdue, qui leur permettrait de ne plus être sous la dépendance des États-Unis d'Amérique et de ne plus servir de valet au nouvel ordre mondial américain.
Êtes-vous favorable à l'extension de l'Europe aux pays de l'Est jusqu'où et avec quelle exclusion? On parle par exemple de la Turquie, je sais que vous êtes hostile à l'intégration de la Turquie dans l'Europe, mais...
Oui, alors là aussi, cette Europe, elle doit avoir une réalité identitaire d'abord, et non pas cette espèce de magma institutionnel mondialiste qui prévaut actuellement et qui conduirait les européistes à vouloir intégrer non seulement la Turquie comme c'est en cours, mais aussi les pays du Maghreb, par exemple. Donc nous disons que l'Europe doit pouvoir s'étendre, l'Union européenne, la communauté des nations d'Europe que nous proposons, de pouvoir s'étendre à l'ensemble des pays de civilisation européenne, y compris bien sûr tous les pays de l'Europe de l'Est. Et c'est là où je pense notre projet est réaliste, c'est que nous considérons que les pays européens doivent pouvoir être de plein pied, de plein droit, membres de cette communauté des nations d'Europe, sans avoir à se soumettre à la moindre condition. Le fait d'être européen doit leur assurer ce droit. Et c'est ensuite, au niveau des coopérations, qu'il y a, bien sûr, le choix et des conditions plus techniques à réunir pour organiser telle coopération militaire, telle coopération économique ou telle coopération culturelle. Mais nous entendons que chaque pays européen puisse entrer sans condition dans l'Union européenne et puisse aussi en sortir, ce qui est aujourd'hui totalement interdit.
Oui. Alors, je ne veux pas vous demander de réciter le programme, parce que
ça serait très long.
Il est d'abord assez long, puis en plus, il est disponible dans les kiosques, je le rappelle, moyennant la modique somme de 40 francs. Donc on pourra en savoir beaucoup plus. Ce que je souhaiterais, c'est revenir, si vous voulez, sur l'élaboration du programme, parce que vous nous avez expliqué comment ça s'est passé, vous avez expliqué au début comment ça s'est passé, et je trouve ça intéressant de savoir que tous les militants, donc toute la base a participé à l'élaboration de ce programme, c'est-à-dire a émis des idées, des propositions, et que ça a suivi ce que j'appelais le système du centralisme démocratique, ce qui n'est pas forcément un mauvais système quand il est fait honnêtement. Le seul problème du centralisme démocratique, c'est que c'est en général une crapulerie, parce que c'est appliqué par les communistes. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir les questions qui vous ont paru, à travers les réponses des adhérents, les plus présentes, les plus sensibles, les plus urgentes.
Oh, je crois que nos militants, nos adhérents sont assez représentatifs de la population française, hein, et c'est bien naturel et c'est très rassurant. C'est-à-dire que les questions qui les préoccupent le plus, c'est d'abord les questions qui concernent au quotidien la vie des Français. On a parlé déjà de l'immigration, évidemment, ce problème est un problème majeur qui est revenu de façon récurrente. Il y a un autre problème qui devient, je dirais peut-être même encore avant l'immigration, parce que ça concerne absolument tout le monde, même les zones où il y a peu d'immigration, c'est le problème de la sécurité. Problème de sécurité publique. C'est le problème également que nous développons beaucoup dans ce programme des libertés économiques et de la fiscalité. Cette idée que nous sommes actuellement en train de subir une ponction absolument démente de la part des pouvoirs publics, qui fait qu'on atteint maintenant des taux de prélèvement obligatoires en France qui sont absolument records, et que ceux qui travaillent ou qui ont travaillé payent de plus en plus, hein, pour entretenir ceux qui ne travaillent pas, qui vivent en parasite et qui généralement sont les mêmes que ceux qui sèment la pagaille dans notre pays. C'est la question des valeurs aussi. C'est la question des valeurs qui, je crois, maintenant devient aussi un problème tout à fait majeur au plan politique dans notre pays. Quand on voit que M. Devedjian est porte-parole du RPR, au nom du RPR, se prononce pour l'adoption des enfants par les couples homosexuels, on voit bien qu'il y a là un nouveau terrain de combat politique à mener. Et puis, les questions...
Pardon de vous couper, oui. C'est quelque chose de terrifiant. Ça.
C'est terrifiant.
Terrifiant pour une raison personnelle. C'est-à-dire, si c'était quelqu'un d'autre que Devedjian, ce serait moins normal. Parce que, de toute façon, c'est pas étonnant d'entendre un type du RPR dire des bêtises. C'est pas nouveau.
Vous l'avez connu plus à droite, Devedjian.
Mais dans le cas de Devedjian, quand on sait ce qu'il a été, on mesure là la force de déréliction, la force de corruption au sens du pourrissement des idées, des âmes même, que représentent certains groupements. Je pense à la maçonnerie, qui a littéralement tiré Devedjian dans le cul de l'enfer. C'est affolant de voir cet homme qui, il y a 30 ans, avait des idées magnifiques, qui était un nationaliste fervent, qui était un combattant, qui était un résistant, qui était un type courageux, et qui aujourd'hui est devenu cette espèce de personnage gluant, mollasson, qui est toujours d'accord avec tout le monde, et dont le visage suit d'ailleurs l'affaissement des idées. C'est quelque chose de totalement effrayant.
Avec des sophismes terribles, parce que il faut voir ce qu'il dit pour justifier cette prise de position, à savoir que les enfants seraient mieux chez les couples homosexuels que dans des maisons à la DAS.
Oui,
comme
mais
si il n'y avait pas en France un grand nombre de parents ne pouvant avoir d'enfants qui ne souhaitaient pas adopter. C'est justement le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas d'enfants à adopter.
On peut aller même un tout petit peu plus loin pour appliquer le mode de réflexion de Vedjianesque. C'est-à-dire, le meilleur moyen d'avoir un enfant qui n'est jamais malade, qui n'a jamais mal, qui ne souffre pas, qui n'a pas peur, c'est un enfant mort. Donc ça, on est tranquille, celui-là, il souffre pas, il est parfaitement tranquille. Donc, effectivement, il faut tuer les enfants à la naissance, voire un petit peu avant, comme ça on est sûr qu'on n'aura aucun problème avec eux, ils seront pas dans des maisons de redressement, dans des orphelinats, ils seront pas malheureux, la question de l'adoption par les couples homo ou hétéro ne se posera plus, et il y aura plus d'enfants malheureux. Voilà, c'est la pensée devedjianesque ou devedjianenne.
Oui, c'est la pensée du système.
C'est la pensée du système.
C'est l'augmentation de l'allongement de la durée
pour les vieux. vieux.
De l'avortement.
La même chose pour les vieux. Les vieux vivent, ils sont malades, ils ont des rhumatismes, ils ont des angoisses avec leur retraite et tout. Il n'y a qu'à les tuer comme ça. On peut le faire poliment, froidement, tranquillement, sans leur faire de mal. Avec les piqûres modernes, ça marche très bien. Il y a même des infirmières à Mantes-la-Jolie qui font ça d'une façon extrêmement habile et radicale. Et tout va bien. Ça ne fait pas partie du programme du MNR, ça, je pense. C'est pas quelque chose que vous avez été proposé.
Non, ce que je voudrais dire en plus, si vous me permettez, c'est que je crois que notre programme a ce mérite, tout en affirmant de façon très très simple, très 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 affective même, les idées fondamentales qui sont les nôtres, qui sont celles de notre mouvement, d'être en même temps un programme de rassemblement et de synthèse. Je veux dire par là qu'on trouve dans notre programme de façon très forte à la fois l'impératif d'identité dont j'ai parlé, qui renvoie à l'immigration, qui renvoie à la question culturelle, à l'enracinement, la question de la souveraineté nationale qui intéresse, je dirais, ceux qui, tort ou à raison, ont été amenés à voter, par exemple, pour un Pasqua dans un passé récent, qui renvoie à la question des valeurs, dont M. De Villiers, récemment, dans un passé pas très ancien, se faisait le champion, qui renvoie aux libertés économiques, qui sont, dès lors qu'on assure une régulation des échanges économiques internationaux, qui sont une nécessité, ces libertés économiques. Et puis la fraternité, qui est également un impératif majeur, et puis enfin la sécurité, l'ordre républicain que tous les Français considèrent comme aujourd'hui essentiel. Et j'ajoute une chose sur laquelle on ne réfléchit pas suffisamment quand on parle d'un programme politique, c'est que nous sommes aujourd'hui, je suis consterné de le constater, nous sommes aujourd'hui le seul mouvement politique à disposer d'un programme politique.
Et ça, c'est vrai.
Dans la classe politique, que ce soit le RPR, l'UDF, DL, ils se disent eux-mêmes, d'ailleurs, ils n'ont plus d'idées pour avoir un programme. Que ce soit dans la gauche dite plurielle, là, c'est plutôt qu'ils sont trop divisés pour se mettre d'accord sur un programme. Même, je dirais, chez Pasqua, chez Villiers, il n'y a pas de programme. Et tout de même, c'est quand même essentiel, un programme pour un mouvement politique, car qu'est-ce qu'un parti politique au sens propre du terme? C'est bien une communauté d'hommes ou de femmes qui se mettent d'accord sur un projet qu'ils proposent à leurs compatriotes pour assurer l'avenir et l'harmonie et l'épanouissement de leur pays.
Pardon de vous contredire, comme on dit maintenant à la radio, mais il y a quand même quelqu'un qui a un programme, c'est Monsieur Séguin. Il a un programme qui est très simple, c'est de ne pas être maire de Paris. Et je trouve qu'il l'applique avec une certaine efficacité en ce moment.
Ah, je veux dire que c'était assez spectaculaire.
C'est assez spectaculaire.
C'est un homme extrêmement brillant.
Il est très adroit
dans l'art de se positionner en perdant au moment où on démarre une campagne électorale.
Et ce que les Américains appellent le fat loser. Des questions d'auditeurs.
Des questions, des
alors,
commentaires.
Des questions, des commentaires, des injures, des insultes, des félicitations, des compliments, des cris d'adoration et de haine.
Des sournoiseries. Moi, j'aurais fait un programme, nous dit cet auditeur, et je l'aurais soumis aux acclamations des militants. Vous demandez aux militants leur avis et vous l'entérinez. Drôle de fureur.
Oui, ça, c'est vrai. Pas très crédible en fureur, pour tout dire.
Je continue. Le programme est très bien, mais comment le réaliser, notamment pour renvoyer les immigrés chez eux? Vous répondez tout de suite ou je dis tout?
Oh, donnez-en quelques-unes, je vais répondre.
Bon. Vous aviez un beau nom, Mouvement National. Par quelle aberration politiquement correcte avez-vous ajouté l'insulte républicain? Face à la mondialisation, le MNR prône le principe de la régulation. En quoi consiste ce principe? Madeleine Ribeyrou œuvre pour une repentance par rapport à la torture en Algérie, donc pour que la France accepte plus d'immigrés algériens. Monsieur Maigret, peut-il nous parler du vote à la PACA pour la subvention d'un colloque des porteurs de valises à Marseille? Aujourd'hui, on annonce le retour de tapis à Marseille. Monsieur Maigret est-il au courant?
D'accord, ben j'ai peut-être...
J'ai encore une question encore sur Marseille. Oui. Si vous échouez à Marseille, maintiendrez-vous votre candidature au présidentiel sous réserve que vous obteniez les 500 signatures? Si vous ne vous présentez pas, soutiendrez-vous M. Le Pen ou M. Pasqua?
Bien, alors pour la dernière question, je crois qu'il est tout à fait prématuré de parler des élections présidentielles. Il faut prendre les élections dans l'ordre où elles viennent. Quant à mon échec à Marseille, je ne risque pas d'échouer puisque je ne suis pas maire de Marseille, donc je ne risque pas d'être battu. Le seul risque que je cours, c'est en effet de conquérir cette ville, mais si je ne suis pas demain maire de Marseille, ce n'est pas un échec, c'est une offensive qui se poursuivra ensuite. S'agissant de Marseille, M. Tapie à Marseille, ça je ne pense pas du tout, je crois qu'il a déjà essayé, je pense qu'il est parti vers d'autres horizons, on le voit maintenant comme animateur de radio, comme animateur de télévision.
Il est à Monte-Carlo, il n'est pas à Marseille.
Il est à Luxembourg.
Ah, c'est Luxembourg.
À Luxembourg.
Je croyais que
c'était
Monte-Carlo.
Ah non, je crois qu'il doit faire les deux.
Ah bon.
S'agissant du colloque qui a eu lieu, enfin, qui était projeté en effet à Marseille, hein, ce colloque d'une certaine organisation qui s'appelle le CREOPS et qui visait en effet à écrire l'histoire et à encenser ceux qui, pendant la guerre d'Algérie, s'étaient retournés contre leur propre pays en trahissant leur nation, bah, je crois que nous avons réussi à obtenir l'annulation de ce colloque, ce qui prouve que ceux qui l'avaient, qui étaient prêts à les accueillir dans leurs locaux et à les financer ont quand même pris peur devant cette espèce de provocation scandaleuse. Et si ce colloque devait à nouveau se tenir dans ma ville, je pense que nous serons à nouveau en mesure de les faire reculer. Alors, s'agissant des questions de fond, non, un mot sur la République. La République est aujourd'hui, il faut en être bien conscient, un barrage contre le mondialisme et un barrage contre le politiquement correct, car la République aujourd'hui est en train de devenir un obstacle à ceux qui nous combattent pour l'accomplissement de leurs projets. Il faut savoir par exemple que la République n'est pas compatible avec l'Europe fédérale et l'Europe mondialiste, puisque la République préconise la souveraineté nationale. Il faut savoir que la mise en place de quotas ethniques ou de quotas de minorités qui est en train d'être mise en place de façon plus ou moins officielle actuellement est totalement contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, qui est un principe de la République. Et d'ailleurs, je pense que dans les années qui viennent, vous verrez que nos adversaires souhaiteront faire sauter le verrou de la République et que la République sera pour nous un outil supplémentaire pour les combattre et pour s'opposer à leurs projets funestes. S'agissant des échanges économiques internationaux et donc du mondialisme économique, nous sommes partisans effectivement d'une formule alternative que nous avons appelée la régulation. Les régulations économiques, eh bien, c'est en quelque sorte la nécessité de ne pas accepter cette concurrence sauvage qui consiste à mettre sur le même marché, sans précaution, des entreprises qui sont les nôtres, avec des entreprises des pays du tiers-monde, par exemple, et avec des mains-d'œuvre sous-payées et socialement exploitées. Pour éviter cela, eh bien, il faut mettre en place des écluses qui permettent le commerce, mais qui évitent que ce commerce se fasse de façon totalement déstructurante pour les économies aussi bien des pays développés que des pays sous-développés. Ces écluses douanières, bah, c'est des droits de douane qui compensent ces différences illégitimes et qui fonctionnent justement comme les écluses sur les canaux qui permettent de faire passer un bateau d'un plan d'eau à un autre, plans d'eau qui sont à des niveaux différents. Voilà, s'agissant de l'immigration, comment mettre en œuvre la politique qui est la nôtre de retour des immigrés dans leur pays d'origine? Bah, par des principes tout à fait simples, qui consistent d'abord à rendre effective l'expulsion systématique des clandestins, des délinquants et des criminels, en appliquant une idée toute simple, c'est que ces gens-là doivent être expulsés, même s'ils ne sont pas d'accord. Et dès lors que ce principe sera accepté et mis en œuvre, eh bien les choses pourront aller très vite et se faire assez facilement. Il suffira de supprimer la carte de séjour de 10 ans automatiquement renouvelable et de la remplacer par une carte de séjour de 1 an non automatiquement renouvelable. Et à ce moment-là, eh bien nous cesserons progressivement de renouveler les cartes de séjour. Et les intéressés seront donc amenés à rentrer dans leur pays de leur propre chef, par les moyens qu'ils souhaiteront, tranquillement, sereinement. Et ceux qui resteront au-delà de la date limite de leur validité de leur carte de séjour, deviendront des clandestins et seront donc expulsés.
Autrement dit, eux, ça sera gratuit le retour, tandis que les autres, ils seront obligés de payer leur train.
Si vous voulez.
C'est pas très sympa, quand même.
Une autre série. Alors, que pensez-vous de l'appel de Philippe de Villiers à ses électeurs de rejoindre les listes RPR-UDF pour les municipales? Bravo pour les... Ça, c'est pour Serge Lebecquetch. Bravo pour les... la vérification des techniques de sondage. Je suis pour le contrôle de l'immigration, bien que né de parents étrangers et juifs. Monsieur Maigret, que pensez-vous du fait que Lionel Jospin se croit obligé d'assister au dîner annuel du CRIF? Que pensez-vous de l'initiative de M. Chabanis de demander des états généraux? Comptez-vous soutenir cette idée pour fédérer toutes les bonnes volontés? De Végion a viré sa cutie depuis un certain temps pour de l'argent et il appartient à la trilatérale, ça c'est l'auditeur qui le dit,
pour de l'argent.
À la trilatérale, tout comme Védrine et Barre.
Il n'a pas besoin d'argent, de Belgien, il est riche à millions.
Mon fils a deux nationalités, française grâce à moi et australienne par sa mère. Par conséquent, votre programme est incompatible avec mon devoir paternel. Vous êtes optimiste en croyant que votre brochure sera en kiosque. Depuis 8 jours, je cherche le numéro spécial de Rivarol, il n'est nulle part. Que pense Monsieur Maigret?
Il est à Rivarol. D'accord, mais Rivarol, c'est rue d'Hauteville.
Donnez le renseignement.
Vous allez rue d'Hauteville, je crois que ça doit être au 5 rue d'Hauteville, et puis il y a les bureaux de Rivarol, et vous frappez, vous frappez à la porte, je veux dire, vous frappez pas à Gamar Kevin Gallic, quand même. Et vous achetez le numéro spécial de Rivarol, le numéro 2500, qui est remarquable d'ailleurs, comme tous les autres. Donc il n'est pas meilleur que les autres, il est aussi bon, c'est déjà très bien. Elle sera là la semaine prochaine, Marie.
Que pense M. Maigret du livre du docteur Maud Dru, Retraite, le mensonge permanent, c'est-à-dire de l'égalité des retraites? À son dernier passage sur Radio Courtoisie, Jean-Marie Le Pen a déclaré ne pas avoir une conception raciale de la nationalité. À son dernier passage sur BFM, Monsieur Maigret a laissé entendre qu'il pourrait renoncer à la dénaturalisation automatique des immigrés entrés depuis 1974. Est-ce à dire que tous deux renoncent au patriotisme, etc., etc.,
etc., etc.
Il y a beaucoup d'adjectifs, alors ça m'ennuie un peu de vous les lire, mais je vais les lire. Alors, renoncer au patriotique, racial, suprématiste, colonialiste, monoracialiste, blanc, nordique et alpin pour l'Europe.
Merde, je suis pas dans le coup.
Vous voyez pourquoi je voulais pas
lire. Moi, je suis un Untermensch slave, j'ai pas le droit. Je suis pas alpiniste.
Et puis, que pensez-vous qu'il soit...
Mais non plus, personne. Allez, foutez le camp. Bon, voilà.
Bien.
On va peut-être laisser Bruno Maigret répondre maintenant.
Alors, je vais, répondre à l'essentiel de ces questions. D'abord, l'attitude de M. Villiers qui demande à ses adhérents de se mettre sur les listes RPR-UDF, je crois que ça place clairement M. de Villiers dans le camp du RPR et de l'UDF. Et je ne vois pas comment on peut prétendre construire une force politique alternative de renouveau si on place ces militants comme candidats RPR-UDF qui seront solidaires donc des positions et de l'action du RPR et de l'UDF.
C'est peut-être une opération d'entrisme diabolique où une fois qu'ils sont élus, ils se démasquent. Vous croyez que j'étais RPR, je
ça prouve au moins une chose en ce qui concerne M. De Villiers, c'est qu'il a la reconnaissance du ventre. Il se souvient que c'est qui lui a sauvé la mise en 95.
Ouais. Toujours, voilà, les méchancetés. Il est très bien, ouais. Villiers. Il est très, très bien.
Alors, c'est tout ça, c'est de la responsabilité de M. De Villiers. Nous avons choisi une autre voie, qui est de présenter des listes MNR, des listes autonomes, et nous aurons 450 listes qui sont actuellement en préparation dans les villes de France pour défendre haut et fort les couleurs qui sont les nôtres, celles d'un vrai renouveau national. Les états généraux de M. Chabanis, c'est le rassemblement des forces de renouveau national. Moi, j'y suis tout à fait d'accord. Je rappelle que pour le référendum, c'est pas très ancien, j'avais proposé à Monsieur Le Pen, à Monsieur Pasqua, à Monsieur De Villiers, la création d'un comité de coordination du non, de façon à créer une synergie pour être plus efficace dans la défense de nos idées communes. Je n'ai pas eu de réponse de la part d'aucun des trois personnalités en question, donc je le regrette. Pour ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait d'accord pour l'union des forces nationales à l'occasion d'un référendum, comme à l'occasion des élections municipales, ou plus globalement pour toutes les échéances qui viennent. S'agissant de la double nationalité et de ce père inquiet d'avoir, croit-il, à choisir entre la nationalité française et la nationalité australienne pour son fils, il n'y a absolument aucun problème et ça, notre programme ne doit pas lui poser un cas de conscience. On ne demande pas aux enfants mineurs de choisir.
C'est plutôt financièrement que ça pose un problème, parce que s'il va passer les week-ends chez ses grands-parents en Australie, ça va finir par coûter bonbon.
C'est vrai. Ce que nous demandons simplement, c'est qu'à l'âge de sa majorité, eh bien, votre enfant, monsieur, choisisse sa nationalité. S'il souhaite devenir australien, c'est son droit le plus strict. S'il souhaite choisir la nationalité française, eh bien, nous souhaitons qu'il soit français à part entière et qu'il ne soit que français. S'agissant de notre programme qu'on ne trouverait pas en kiosque, eh bien, il est de toute façon disponible, je fais la même réponse que pour Rivarol, au siège du MNR, 15 rue de Kronstadt. Il suffit alors de le commander, ça coûtera un peu plus cher parce qu'il y a le droit de port, je crois que c'est 65 francs à ce moment-là qu'il faut adresser à notre mouvement. Pour ce qui est des retraites, et notamment de l'égalité des retraites, il est certain qu'il y a actuellement dans notre pays un problème très grave, puisque non seulement les retraites ne sont plus assurées dans la durée, mais qu'en plus il y a de graves inégalités entre les Français s'agissant des retraites, que l'on soit du secteur public ou qu'on soit du secteur privé, que l'on soit salarié ou que l'on soit travailleur indépendant, et cela nous paraît très malsain. Donc nous sommes partisans de deux grandes réformes d'envergure s'agissant des retraites. Nous sommes partisans d'unifier les différents systèmes dans un esprit de justice, mais dans le même temps nous sommes partisans de diversifier les types de retraite, de façon que, sans remettre en cause le principe actuel de la retraite par répartition, eh bien les Français puissent choisir, s'ils le souhaitent, un système de retraite par capitalisation, en introduisant dans ce système des compagnies d'assurance ou des mutuelles qui contribueront à rendre le système plus efficace.
C'est deux questions pratiques simplement et deux tout petits commentaires. Alors, pensez-vous qu'un jour les Français se rendront compte que la mondialisation est en fait la mainmise des Anglo-Saxons sur l'économie mondiale ? Et, commentaire, votre éloge de la gueuse est absolument scandaleux. Votre seul petit avantage pour l'instant, c'est que vous êtes un peu moins pire que la concurrence. C'est mince. Et puis alors, pouvez-vous rappeler à l'antenne le numéro du répondeur MNR, dit Radio MNR ? Je vous le dis parce qu'on me le donne. C'est le 01 56 05 29 95, qui n'est d'ailleurs pas toujours journalier, petite critique. Et puis, pouvez-vous redonner les coordonnées du MNR ?
Alors, les coordonnées du MNR, c'est 15 rue de Kronstadt, dans le 15e arrondissement. Bon, s'agissant des considérations sur la République, je crois que c'est vraiment, alors là, pour le coup, un débat qui me paraît, somme toute, largement secondaire, lorsque nous avons à faire face à la sauvegarde des valeurs de notre civilisation, lorsque nous avons à résoudre des problèmes concrets aussi graves que l'immigration, que l'insécurité, que le fiscalisme, que la perte des valeurs fondamentales, les pertes des valeurs familiales, par exemple, je crois qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir des débats institutionnels de ce type et qu'il faut se rassembler sur l'essentiel. S'agissant enfin du mondialisme comme la mainmise du monde anglo-saxon sur la planète, c'est une vision des choses qui n'est pas loin de ce que nous pensons, en effet, puisque nous considérons que les États-Unis constituent en quelque sorte le bras armé du mondialisme, et que de la même manière qu'on pouvait dire que l'URSS était la patrie du communisme, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que les États-Unis sont la patrie du mondialisme, et c'est bien pour cela que au nouvel ordre mondial préconisé par les Américains, nous pensons que la France et les nations européennes devraient s'engager pour lui substituer un nouveau concert des nations, c'est-à-dire une organisation du monde fondée sur l'harmonie entre les nations souveraines. Et c'est ça d'ailleurs, je dirais, notre idéal politique, que de pouvoir réorganiser le monde dans sa diversité et dans le respect de sa richesse, dans le respect de ses peuples, et pour le peuple français, de lui permettre ainsi de retrouver les valeurs qui ont fait sa grandeur et dont nous devons être fiers.
Merci Bruno Maigret. Je rappelle que donc le programme du MNR vient de paraître et qu'il est disponible dans tous les bons kiosques. Alors si on vous dit il n'y a pas le MNR, vous dites c'est pas un bon kiosque.
Dans le mien, il est exposé ainsi que tous les journaux de la famille.
Eh bien, elle a bien de la chance, cette dame. Merci encore Bruno. Et
merci infiniment.
À voilà, petite musiquette pour permettre la danse des chaises. C'est comme ça qu'on appelle, hein, les chaises.
Il y a un jeu musical.
Les chaises musicales. Ouais. Un auditeur nous fait. Il y a des remarques intéressantes. Hein. Un auditeur nous dit. Le racisme existe partout. Les Arabes du Caire sont antisémites. Les sémites de Tel Aviv sont anti-Caire.
C'est rigolo. Ça va certainement pas plaire. Mais bon, ça fait rien. C'est rigolo quand même.
Voilà. Mon cher Daniel Raffard de Brienne, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, La Bible trahie, l'ouvrage que vous venez de publier chez l'excellent Rémi Perrin. Cette maison s'appelait dans le temps Perrin and Perrin, Perrin et Perrin.
Oui.
Et la maison Perrin a trouvé que c'était trop de Perrin. Donc, on a demandé à Perrin et Perrin de changer.
Je ne sais pas si c'est la raison, mais il y a que j'ai inventé beaucoup de blagues autour de Perrin et Perrin. Je crois que ça durait que c'est que un petit peu.
Alors,
et Rémi Perrin, j'en trouve nettement moins. Hein.
Oui, c'est plus difficile. Donc, mais il aurait pu dire Rémi et Dominique, quand même.
Ah.
Parce que maman, elle compte un peu dans l'histoire. Enfin bon, ça c'est des affaires de famille, je ne veux pas m'immiscer. Et il fait plein de bouquins intéressants, dont celui-ci, La Bible trahie. Et il est forcément intéressant puisqu'il est Daniel Raffard de Brienne, qui est collaborateur du Libre Journal, puisqu'il nous apporte tous les 10 jours un article, je ne sais pas comment il se le procure, d'un dénommé Séraphin Grigneux.
À qui je n'ai jamais serré la main.
Ben non, vous ne pouvez pas. C'est une espèce d'effroyable canaille républicaine, adorateur des grands anciens, des guillotineurs, des choses comme ça. mais qui est quand même un intellectuel, pas un intellectuel, un littéraire, puisqu'il traîne derrière lui une tragédie.
Une tragédie d'Écunius, oui.
D'Écuyus, d'Écuyus.
On pourrait peut-être en mettre d'ailleurs lancer un appel pour.
Oui, pour éditer le
D'Écuyus. Oui, surtout le représenter.
Alors, présenter. Alors, s'il y a donc une troupe de jeunes comédiens qui veut interpréter le D'Écuyus de Séraphin Grigneux, vous avez en tête quelques vers de cette tragédie? Non, vous n'avez pas ça en tête. C'est quand même pas mal du tout. Ça vaut largement Racine et Corneille réunis.
Ah oui.
Hein, on dirait le fils naturel de Racine et de Corneille.
Oui, fils naturel.
Adoptif, bien entendu.
Oui, d'accord. Oui. Taxé.
Voilà. Bon, pour revenir à des choses moins sérieuses, la Bible trahie, c'est quand même un titre extrêmement... d'abord intrigant et puis extrêmement dur, parce que notre excellent camarade Marc Zem, avant de s'absenter d'une façon que je trouve d'ailleurs à peine polie, avait publié quelque chose qui s'appelait Iota Unum, si je ne m'abuse, comme disait le docteur. Et Iota Unum, c'est la fameuse phrase qui interdit de changer un iota à l'écriture sainte, sous peine d'être anathème avec toutes les peines qui sont prévues pour ce genre de comportement. Or, trahir la Bible, c'est plus que changer un iota, c'est carrément manipuler le grand texte sacré, le texte fondateur
de
notre religion.
C'est bien de ça qu'il s'agit. Et c'est très important de le dire et de le voir et de le prouver, parce que l'écriture est la base de la religion catholique. Et si l'on atteint la base, on atteint l'ensemble de la religion. Et on s'aperçoit que par des petites manipulations, pas nécessairement par des grandes révolutions, on arrive à saper les dogmes principaux de la religion catholique. Et c'est ça que je voulais montrer par un certain nombre de sondages, pas n'importe où bien sûr, à des endroits importants de l'écriture, montrer que le texte français que l'on donne actuellement dans la plupart des Bibles ne correspond pas au texte original, ou tout au moins qu'il y a des variantes ou des variations importantes. Toujours dans le même sens.
Alors, c'est des variations, il n'y a plus... On connaît la phrase « traductor et traditor », le traducteur trahit forcément. Le problème des traductions de la Bible, c'est qu'il y en a plusieurs, qu'il peut y avoir des traductions qui soient malvenues par maladresse, ou par incompétence. On parlait tout à l'heure avec le docteur Plantet de cette célébrissime traductrice d'anglais qui avait traduit notamment les mémoires de Stanley, je peux pas dire la faute de traduction qu'elle avait commise, je peux pas la dire au micro parce qu'elle est épouvantable.
Non, mais l'autre, des naufragés.
Ah, et l'autre, les autres, alors c'était pas dans les mémoires de Stanley, c'était dans un autre livre où les marins récupéraient un naufragé sur un radeau, ils le montaient à bord de leur bateau, et les premières paroles du naufragé c'était « I'm hungry and thirsty », ce que cette dame traduisait brillamment par « Je suis hongrois et j'ai 30 ans
».
Voilà.
Oui, donc, vous connaissez la traduction du latin par Alphonse Allé de Post coitum animal triste.
Non, pas celle-là, non.
Le commis des postes est un animal triste.
Ah ben c'est ce qui est vrai d'ailleurs. Dans mon quartier, je peux vous dire que le commis des postes est un animal triste.
Ceci étant dit, qu'il puisse y avoir des erreurs, c'est évident.
Voilà, mais ça n'est pas ce dont vous parlez.
Non, parce que c'est d'ailleurs, ça n'est même pas explicable par l'erreur. Compte tenu du fait que les premières traductions françaises, je parle des traductions françaises, datent tout de même du XIe siècle, qu'il y en a eu des centaines. Donc il est tout de même assez facile de voir, si on n'est pas très très sûr de son affaire, d'aller voir ce que les autres ont mis.
Oui, d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est de voir que les gens continuent à traduire, alors que ça serait tellement plus simple de pomper les traductions précédentes et de les réraïter.
Ben, surtout qu'il y en a de bonnes. Oui. Il y en a eu beaucoup de mauvaises, de maladroites, de discutables. À chaque hérésie, il y a eu des bibles trahies. Ça s'est vu.
Ça veut dire ça que ça commence par une Bible trahie qui débouche sur une hérésie ou est-ce que c'est une hérésie qui suscite une Bible trahie?
Si vous prenez le cas de Luther, il a trahi pour soutenir son hérésie. Et il a trahi de manière très très simple. Dans l'épître aux Romains, il s'est contenté d'ajouter un mot seulement. Et c'est avec ce seul mot seulement qu'il a édifier tout son système de salut par la foi fiduciaire, enfin la foi telle que Luther l'entendait.
C'est bien comme truc.
Oui, alors c'est pour ça. Hein. On se dit, bon, un petit coup de pouce par-ci, par-là, ça ne peut pas faire de mal. Mais si, ça fait un mal énorme. Et c'est ce que j'essaie de montrer. On atteint ainsi la nature de Dieu, que l'on finit par, en deux petits coups de cuir à peau, par assimiler au démiurge, au grand architecte de l'univers, et non plus au Dieu créant ex nihilo. On atteint la divinité du Christ, on atteint sa naissance virginale, on atteint la virginité de la Sainte Vierge, etc., etc. Tout y passe. Et ça, en tripotant quelques phrases par-ci, par-là.
Alors, qui sont les grands tripoteurs, si j'ose dire?
Écoutez, on peut dire que, mon Dieu, vous savez qu'il y a eu comme une sorte de crise dans l'Église, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte.
On en parle.
On en parle, eh bien, mon Dieu, tous ceux qui participent à cette crise, tous ceux qui l'amènent, tous les modernistes, tous les progressistes, ont tripoté.
Actuellement, par exemple, il y a plusieurs Bibles disponibles. Il y a la Tobie, il y a la Bible de Jérusalem, il y a la Bible de... Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein.
Maretsu.
Crampon est plus ancien.
Crampon est plus ancien, c'est une... Dans ses versions anciennes, c'est-à-dire celles qui sont réédites maintenant, d'ailleurs. Alors, en 1904, c'est une bonne Bible.
Donc, parmi les Bibles récentes, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on peut dire que... en fonction des trahisons ou des adaptations ou des modifications que vous avez notées, chaque Bible, chaque traduction représente une volonté déterminée d'aller dans une certaine direction.
Oui, si vous prenez la Bible de Jérusalem de édition 1998, parce qu'il y a eu trois éditions successives qui avaient finalement des tendances différentes. Et soit dit en passant, l'édition 1998 tire son autorité d'un imprimatur de 1955, alors qu'elle est totalement différente de la Bible de l'époque. Alors, la volonté affichée par la Bible de Jérusalem, la Bible de 1998, c'est d'effacer le contentieux judéo-chrétien en reprenant la traduction de la Bible directement sur l'hébreu. Ce qui, a priori, peut sembler une excellente chose. Bon, supprimer le contentieux judéo-chrétien, c'est un rêve. Puisque,
ça va être dur, quand même.
Oui, non, c'est sûr, c'est pas un problème de racisme ou d'antisémitisme, c'est le fait qu'il y ait deux religions
tout simplement que
ayant
la seule solution, c'est qu'on dise qu'on ne reconnaît pas le Christ comme le Messie, Fils de Dieu.
C'est justement la tendance.
Il n'y aura plus de problème.
C'est justement la tendance. Or, quand on vous dit, oui, celle-là, c'est une bonne Bible, elle est traduite directement de l'hébreu, on ne dit pas, on laisse entendre que le texte original hébreu que l'on a actuellement est le texte authentique de la Bible. Or, ce n'est pas exact du tout. Le texte hébreu que l'on a actuellement n'est attesté que depuis le Xe siècle. Il provient de la Bible judéenne, puisqu'il y a eu plusieurs versions autrefois. On ne connaît pas la version primitive.
Enfin, il existe quand même toujours la Torah. Ça, la Torah, c'est...
Mais oui, mais ça en fait partie.
le Pentateuque, les cinq premiers livres,
oui, ça en fait partie. Et ce sont des textes qui ont été revus après le début du christianisme. Et finalement, la mise au point a été achevée au Xe siècle, et tous les manuscrits hébreux antérieurs ont été détruits.
Quelle est l'intention la plus courante que vous avez remarquée dans les trahisons de traduction?
Je pense que c'est la réduction de la personnalité et du rôle du Christ. C'est vraiment la base du christianisme, c'est ce qui me paraît le plus menacé. Ça va dans le sens que nous disions à l'instant.
Et est-ce que ça veut dire que, à l'heure actuelle, l'Église conciliaire se prête à cette manœuvre?
Oui, elle s'y prête. Je pense qu'elle a deux motifs. Il y a un motif dit écuménique, c'est-à-dire on veut mettre tout le monde dans le même sac, et on veut être copain avec tout le monde, donc on enlève tout ce qui dépasse, tout ce qui gêne. C'est une chose qu'on voit, par exemple, les problèmes du Saint-Suaire, autre problème qui m'intéresse. C'est quelque chose qui gêne parce que ça n'est pas accepté par tout le monde. Il y a des religions que ça gêne. Alors ça, on essaie de passer un petit peu la gomme sur tout ça. Et puis deuxièmement, il y a un naturalisme qui me paraît tout à fait évident, qui va dans le sens du mondialisme d'ailleurs, c'est-à-dire ce que l'abbé de Nantes appelait autrefois le Mazdu.
Le Mazdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle.
Oui, c'est ça.
On voit aujourd'hui.
Une sorte de dénaturation du catholicisme pour, en lui enlevant tout ce qui est un petit peu hard, hein, pour arriver à un naturalisme vague, à un déisme qui soit acceptable de tout le monde. Peut-être en vue d'ailleurs d'aboutir à l'adoration de Gaïa. Vous savez que c'est l'aboutissement du mondialisme finalement.
Oui, mais Gaïa, c'est le principe féminin. Donc la Sainte Vierge devient le principe féminin.
Ah bah non, la Sainte Vierge, c'est une mère de famille, c'est tout. Hein.
Voilà, c'est ça.
L'enfant.
Et on redevient au mythe de l'androgyne. On revient au mythe de l'androgyne, c'est-à-dire Dieu étant à la fois principe mâle et principe femelle.
Dans ces variations autour de la Bible, que sont les traductions actuelles, eh bien, on retrouve pas mal de thèmes de la gnose. Je vous parlais du grand architecte maladroit, là. Eh bien, tout ça sont des thèmes de la gnose, androgyne aussi. Et il y a donc, et quand vous savez que la gnose est tout de même très voisine de la franc-maçonnerie, ben vous voyez tout de suite quels sont les tenants et aboutissants de tout cela. Et ça se mélange en fait. Il y a plusieurs origines à toutes ces choses-là. On ne peut pas parler du complot unique. C'est plus compliqué que ça.
Quelle est aujourd'hui, selon vous, la Bible la plus fiable?
La plus fiable. Alors, le Concile de Trente a déclaré que la Vulgate, faite par Saint Jérôme à partir de la Septante, Saint Jérôme c'est pas n'importe qui, la Septante non plus, et de plus Saint Jérôme a disposé de quantités de documents que nous n'avons plus, y compris la Bible hébraïque de Jérusalem, et c'est la Peshitta, etc., de beaucoup de sources. Et donc cette Vulgate était considérée comme la version officielle de l'Église, non pas en ce qu'elle ne comporte, qu'elle est parfaite sur le plan des détails matériels, si vous voulez, même des détails historiques. Il est admis qu'on peut l'améliorer par des travaux, des recherches, c'est ce qui se fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne contient aucune erreur. Alors donc, une bonne traduction de la Vulgate, comme celle de l'abbé Glaire, par exemple, qui date de la fin du siècle dernier, mais qui a été rééditée tout récemment par DFT, diffusion de la fin des temps, est une très bonne Bible. Alors j'aime aussi beaucoup la Crampon, qui est plus savante, qui utilisait les textes grecs, hébreux, etc., mais avec beaucoup de sûreté. Donc c'est une très bonne Bible, éditée d'ailleurs, rééditée dans sa version ancienne de 1924 par la même maison de diffusion de français.
Alors je vais faire un peu de provocation. Quelle est votre opinion sur la traduction Chouaki? Je vous précise qu'il faut être gentil parce que André Chouaki a été reçu à ce micro il n'y a pas très longtemps par Haute de Kéros. Donc si on pouvait éviter de l'accabler d'injures.
Je ne vais pas l'accabler d'injures du tout. Je vous dirais même que peut-être on pourrait couper tout à fait court en disant qu'en toute manière ce n'est pas une Bible catholique.
C'est vrai.
Et que le droit canon, même l'actuel, interdit aux catholiques d'utiliser des bibles qui ne soient pas catholiques. C'est tout. Donc, qu'elle soit en dehors de ça extraordinairement folklorique, parce que le brave monsieur Chouraki a voulu, et c'est un petit peu amusant, non pas traduire, mais transcrire, rendre de l'hébreu en français, et ça donne un baragouin qui est extrêmement pittoresque.
C'est amusant en tout
c'est
cas.
Très
il appelle Adam le clébeux, je trouve ça plutôt...
Ce qui est un petit peu dommage, c'est que des autorités ecclésiastiques aient pu recommander cette Bible, qui non seulement est un petit peu amusante, un peu trop amusante par certains côtés, est totalement incompréhensible pour le reste, aient pu recommander cette Bible comme une Bible catholique, alors qu'elle n'est pas du tout catholique, et n'y prétend d'ailleurs pas.
Alors un auditeur nous dit, que pensez-vous de la traduction de la Bible Second? Moi, c'est celle que j'utilise et je viens d'apprendre...
La Second, c'est une Bible protestante.
Ben voilà, c'est ça. Alors j'utilise celle-là parce qu'elle est sur l'ordinateur, c'est bien.
Il manque les livres canoniques. Voilà. Puis alors, il y a évidemment quelques passages où ils interprètent autrement que les catholiques, sans ça, veut dire c'est un travail sérieux.
Voilà, alors La Bible trahie de Daniel Raffard de Brienne, c'est un livre extrêmement intéressant, d'abord parce que il apporte beaucoup d'informations intéressantes, mais aussi parce que il y a un appareil de notes, donc une bibliographie qui est très complète et qui permet d'aller rechercher, d'aller vérifier sur le texte
dans un domaine comme
les affirmations
de l'auteur. Il faut justifier tout ce que l'on dit. C'est un domaine trop sérieux pour faire de la fantaisie. Donc tout ce que je dis, je le justifie dans ces notes. Il y a 340 notes.
Les titres des chapitres, ça me paraît important de les citer parce que ça montre comment est orienté le livre, comment est fait le livre. chapitre 1, le texte hébreu de l'Ancien Testament, 2, les traductions des textes grecs de l'Écriture, 3, les traductions latines de l'Écriture, 4, les traductions françaises de l'Écriture, 5, Dieu dans les nouvelles traductions, 6, Jésus-Christ dans les nouvelles traductions, 7, la vie surnaturelle dans les nouvelles traductions, et c'est peut-être, ce sont peut-être ces trois derniers chapitres, Dieu, Jésus-Christ et la vie surnaturelle dans les nouvelles traductions, qui apportent le plus de choses tout à fait édifiantes quant à la méthode de subversion qui est utilisée par ces traducteurs traîtres.
Vous avez une analyse de quelques, enfin un jugement porté sur quelques-unes des traductions françaises actuelles, où il y a aussi d'autres détails de ce type, chacun innovant.
Alors, par exemple, je tombe là sur un commentaire. Le fameux Nenos Inducas Intentationem, et la traduction française,
oui,
c'est, on apprend des choses, par exemple, on rencontre dès le XIIIe siècle, et ne souffrez pas que nous soyons tentés, aussi un synode de Tours en 96 donne, et ne nous laisse point choir en tentation, Gerson en 1507 et Benoît Curé de Saint-Eustache en 1574 ont à peu près une même formule, et ne permettez pas que nous soyons vaincus en tentation, Gondi, évêque de Paris, qui est plus bref, en 72, ne nous laisse pas tomber. Le mot succomber apparaît au XVIIe siècle. Donc il y a toute une analyse des différentes versions de cette phrase qui a soulevé tellement de problèmes
au
moment de commentaires.
Des commentaires de tous les pères d'église.
Voilà. Et c'est extrêmement intéressant.
Il faut
absolument
supprimer cette nouvelle traduction qui est une honte.
Ne nous soumets pas à la tentation.
C'est ce qui est vraiment injurieux pour nous.
Je dis ne nous laisse pas succomber comme tous les gens bien élevés. Voilà. Ne nous laissez pas succomber d'ailleurs, plus exactement.
Oui, ne laissez pas succomber.
Merci Daniel. Voilà. Ce livre est paru, je le rappelle, aux éditions Rémy Perrin. On peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies. On peut se le procurer au Libre Journal ou
bien sûr,
au Libre Journal. Exactement, au Livre Service du Libre Journal. Et peut-être même chez l'éditeur directement.
Chez l'éditeur directement, 46 rue Sainte-Anne dans le deuxième, ça coûte 98 francs. Et puis je le signe aussi à l'ancienne librairie Saint-Nicolas, qui est devenue France Libre, rue du Petit Pont.
Oui, j'ai pas compris d'ailleurs, c'était tellement plus joli librairie Saint-Nicolas, pourquoi ils ont voulu appeler ça France Libre, qui ressemble à France Loisirs ou à... Je sais pas. Enfin, c'est mon opinion et je la partage, comme disait, avec notamment le docteur Plantet, qui est comme moi toujours prêt à manifester sa mauvaise humeur pour des choses qui n'en valent pas la peine.
Exactement.
Est-ce que je peux poser une question d'auditeur?
Vas-y, pose.
Quel mot a donc ajouté Luther à l'épître aux Romains pour justifier sa doctrine?
Seulement.
Si.
Seulement. Ce qui veut dire, par la foi seulement.
Par la foi seulement.
Donc pas par les œuvres. C'est ça.
Voilà. Non, pas par la foi et les œuvres.
C'est ça.
Merci Daniel. Et je me tourne maintenant vers mon excellent camarade Henri de Fersan, jeune et brillant journaliste, écrivain, qui va venir tendre la main. Henri, vous avez publié...
Après le sermon, je quête.
Très bien vu. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Jusqu'à présent, vous n'aviez embêté personne avec vos revendications. Vous faisiez des livres, vous les vendiez. Ça marchait tant bien que mal. En même temps, vous êtes marié, vous avez fait des enfants. Résultat, maintenant, avant de les publier, vous les vendez. Ce qui, je trouve, à la limite du bon goût. Mais enfin, vous êtes un camarade. Je suis obligé de vous donner...
C'est du commerce, Serge.
C'est du commerce, c'est ça. Donc, blague à part, vous venez de publier terminer plus exactement un manuscrit que j'ai sous les yeux, donc il existe, il est en disquette, il y a tout dedans, etc., dont le titre est
L'imposture antiraciste, et le sous-titre Analyse d'une idéologie criminelle contemporaine.
Voilà. Donc c'est un sujet passionnant en plus, et que vous connaissez particulièrement, puisque depuis des années vous publiez les rapports
annuels sur le racisme anti-français. Voilà. Donc c'est un sujet que j'ai particulièrement étudié. Et en fait, puisqu'on a parlé de la Bible tout à l'heure avec notre excellent confrère Raffard de Brienne, les antiracistes, les gens qui se prétendent antiracistes parce qu'ils ne sont absolument pas antiracistes, ces gens-là sont tout à fait comparables aux pharisiens de la Bible. C'est-à-dire
l'évangile.
Voilà, pharisiens de l'évangile. Il faut, si j'ose dire, faire ce qu'ils disent, mais absolument pas ce qu'ils font. Ce sont des gens qui prêchent, mais qui n'appliquent absolument pas leur sermon. Ces gens-là parlent de démocratie, ils ont soutenu les pires régimes totalitaires du globe. Ces gens-là parlent de tolérance, ce sont les gens les plus sectaires et les plus haineux que la Terre ait porté. Et ces gens-là parlent évidemment d'antiracisme, et ce sont les gens les plus fanatiquement racistes que l'on puisse concevoir.
Ces gens-là.
Ces gens-là, sans préciser.
Donc, vous avez, établi le diagnostic de cette situation, de cette maladie, on pourrait dire. Et c'est un manuscrit, c'est un livre qui est prêt. Et que vous souhaitez proposer à la souscription avant de l'éditer pour des raisons bassement financières.
Pour des raisons bassement financières, simplement c'est que la France, on vit dans un régime, Bruno Maigret disait tout à l'heure qu'on vivait dans un régime socialiste en ce qui concerne la liberté d'expression, on vit aussi dans un régime socialiste en ce qui concerne les finances. C'est que il faut savoir que chaque fois que je gagne péniblement 100 francs en vendant un livre, l'État m'en pique 50.
Donc, et pourquoi vous laissez faire?
Ils ont des gentils monsieur très très persuasifs qu'on appelle des
huissiers.
Très très convaincant.
Convaincant, oui.
Et donc ce livre est en fait une synthèse. J'ai synthétisé dans ce livre, ça m'a pris 2 ans pour assembler la documentation, lire les livres et synthétiser tout. J'ai synthétisé toutes les connaissances que nous avons sur tous les mouvements antiracistes, les gens qui s'en réclament, les gens qui les financent, les gens qui les soutiennent et les gens dont ils s'inspirent. Et en fait, on s'aperçoit que tout la classe intellectuelle française à l'heure actuelle se bâtit sur le mensonge et l'imposture. Tous les gens qu'on nous présente comme des héros que l'on doit aduler sont en fait de sinistres imposteurs. Et, ils ne sont absolument pas ce qu'ils prétendent être. Je vais donner quelques exemples.
Pas d'exemple à 100 000 francs.
Non, pas d'exemple.
Enfin, pas un franc, ça ira.
Voilà. Hein, eh bien, justement, je dirais un homme politique du sud de la France que connaît très bien Bruno Maigret pour l'avoir affronté le patron de cet homme politique-là lors d'élections municipales et qui se présente comme le parangon de la démocratie contre Bruno Maigret. Il faut savoir que cet homme politique-là, en 1978, a fait un article dans un hebdomadaire maoïste en disant qu'il n'y avait pas de génocide au Cambodge. Par exemple.
C'est un négationniste qu'on appelle.
C'est ce qu'on appelle un négationniste, mais ça, c'est pas des négationnistes à 100 000 francs. Si, non. C'est des négationnistes à 100 000 francs de subvention. À 100 000 francs d'amende. Donc, ce livre est truffé de révélations et de rappels.
J'aime beaucoup forcer un auteur à dire du bien de son livre, parce que c'est quand même une puissance extraordinaire. Ce livre est truffé d'informations, dit l'auteur. Imaginez l'auteur qui dit, écoutez, ce livre est vraiment nul, il a absolument aucun intérêt, mais simplement j'ai besoin d'argent, donc il faut me l'acheter. Non, ça marche pas. Vous êtes obligé. Allez-y, continuez à nous dire du bien de votre livre. Oui.
Voilà, donc ce livre est plein de rappels et de révélations. Notamment en ce qui concerne le passé de tout un tas d'hommes politiques, notamment une révélation sur un homme politique français de tout premier plan, dont je ne dirai pas le nom. Écoutez, est-ce que vous connaissez Serge...
Très obscure votre histoire.
Est-ce que vous connaissez Serge, un personnage qui s'appelle Salvador Cordero Marine?
Pas directement, on a peu de relations personnelles, c'est pas un intime.
Eh bien, écoutez, si vous lisez mon livre, vous saurez qui est ce personnage.
Ah, je suis bien content. Bon, ben, je lirai votre livre, alors comme ça je saurai qui est Salvador Cordero.
Salvador Cordero Marine, né dans les Asturies espagnoles en 1934, qui se sent très proche des brigades internationales.
Marine, je connais, mais voilà, Salvador Cordero, je connais pas. C'est pas le père, quand même. C'est le père? Non. Il me regarde avec un... Oh, blague à part. C'est le père? C'est lui le père?
Non, c'est pas le père, c'est le personnage. C'est pas le père du personnage,
ah bon,
c'est le personnage.
Ah bon, on l'a bien d'une autre, tiens. Bon, bah alors...
aussi quelques petits rappels assez intéressants, notamment comme une certaine organisation antiraciste qui a pignon sur rue a collaboré ouvertement en 1973 avec le régime de Ceausescu pour tenter de décapiter la diaspora roumaine en France. Et c'est très curieux, c'est que dans cette affaire, on a vu dans les parties, cette personne qui était un archiviste, chevêque orthodoxe avait porté plainte 6 fois pour diffamation. Je rappelle qu'il a gagné 6 procès. et a tenté un homme politique qui sera jusqu'en 2001, puisqu'à mon avis, il va perdre sa mairie. Non, il l'a déjà perdu d'ailleurs, en fait. Il l'avait perdu en 95, qui avait été maire d'un arrondissement parisien, et qui est donc maire de droite d'un arrondissement parisien, et qui, lors de ses procès en diffamation, a été défendu par un avocat qui s'est retrouvé ministre socialiste de la justice. Et ces deux individus-là ont un point commun, une histoire de famille ici.
Bon, c'est bien compliqué vos affaires. J'espère que c'est plus clair quand vous les écrivez que quand vous les racontez au micro. Hein.
Oui.
Parce que vous êtes un peu obscur. C'est vrai que c'est pas gentil ce que je fais parce que je vous interdis de dire des noms, puis après, je vous reproche de pas être clair. Mais noms sont dans le livre.
Les noms sont dans le livre avec toutes les explications et surtout toutes les preuves, les références des journaux, tout est référencé, cité. Chaque source est vérifiée, citée, référencée, ce qui fait que chaque révélation que je fais, je donne la source où j'ai trouvé la révélation, ce qui fait que les personnes pourront vérifier pour voir que je ne leur que
raconte je n'invente pas de carabistouille.
Exactement. Donc quelques données statistiques sur l'ouvrage, il fera dans 400 pages. Il y a plus de 1000 notes de bas de page, ce qui prouve qu'il est cherche en étrangle.
Je dors déjà.
Et une vingtaine de documents en annexe, des documents donc. Pour montrer l'importance des recherches du livre, la bibliographie occupe 8 pages.
Eh ben, c'est vrai que vous travaillez sérieusement. Hein?
16 heures par jour, 7 jours sur 7.
Comment vous faites pour avoir deux filles au bout de combien de mariages? 3 ans.
3 ans, oui.
Écoutez, il faut vous reposer un petit peu de temps
en temps. Ça me repose.
Bon, Henri, merci. Alors, comment on fait pour acheter?
Alors, donc, comme l'a expliqué Serge en début d'émission, il faut que 200 personnes souscrivent pour que le livre puisse voir le jour. Donc, le livre coûte frais de port franco de port 200 francs. Et il faut donc, pour le commander, écrire à Henri de Fersan, boîte postale 18. 63 670 Le Cendre, en deux mots, cendre comme de la cendre. Donc je répète pour les auditeurs, boîte postale 18, 63 670 Le Cendre, en deux mots.
Et puis si vous n'avez pas noté l'adresse, vous pouvez toujours écrire au Libre Journal, 4 Place France Litz, on fera suivre puisque Henri est un collaborateur du Libre Journal, lui aussi fait une rubrique qui s'appelle Stratégie, qui est très intéressante. Par exemple, si vous voulez connaître absolument la totalité de l'équipement de la marine soviétique en sous-marin, vous lisez le Libre Journal, vous en savez autant que n'importe quel espion des services secrets français.
On en sait en tout cas plus que le ministre de la Défense.
Ça, c'est pas difficile entre nous.
Une petite critique toute petite, de votre camarade qui fait l'éloge de son bouquin, mais parlez-nous un peu du deuxième tome de Géricault depuis le temps qu'il fait trempette.
Ça, c'est la poule Fersan qui téléphone pour manger.
Non, c'est un monsieur.
Ah bon, ça. Jean-Louis Philippe, avant de vous donner la parole tout à l'heure, il va le vendre son bouquin ou pas?
Oh, je pense qu'il va le vendre quand même.
Vous le sentez bien?
Oui. Bon. Je le sens bien.
Voilà, alors notre voyant extra-glucide a dit que vous allez vendre votre bouquin, donc vous allez recevoir 200 souscriptions à 200 francs, facile, 200, comme les 200 familles. Il y a 200 familles qui vont s'abonner à votre... qui vont souscrire pour l'imposture antiraciste dans votre façon.
200 familles.
Je blague, je taquine, mais c'est un gros beau travail. C'est vraiment du bon boulot. C'est un bon journaliste, le petit Henri, et je suis content parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Il était dans la rue, il savait pas. Je lui ai dit, où vas-tu mon petit garçon? Il m'a dit, je voudrais être journaliste. J'ai dit, viens avec moi. Je vais t'expliquer. Si tu es très gentil, je te montrerai comment on fait ce métier-là. Voilà. Merci Henri, à bientôt. Rentrez bien chez vous, embrassez les enfants et madame.
Je n'y moquerai pas.
On a encore 2 minutes. Est-ce que ça vous intéresse le livre d'Henri, François, docteur Plantet? C'est un sujet qui vous intéresse?
Oui,
mais... Il est embêté parce qu'il sent que je vais lui demander un chèque de 220. Je suis coincé en direct. Je n'ai pas...
Non, c'est très intéressant, mais très démoralisant, si vous voulez, dans une certaine mesure, ce qui fait que, en ce moment, j'ai plus tendance à m'orienter vers des études plus théologiques, plus hébraïsantes, et vers des activités ludiques, vous voyez, parce que... Ça fait lourd. Ça ne veut pas dire que je n'achèterai pas. Hein,
non, mais je sais que vous l'achèterez parce que vous ne pourrez pas faire autrement.
Je suis coincé entre le voyant et le vendeur. Là, je suis complètement coincé.
Et moi, je vous le prendrai, mais vous m'offrez un service parce que je ne peux pas acheter de livre. Bon, merci encore une fois. Et ben voilà, dans deux minutes, quelques promesses, enfin quelques engagements formels de Jean-Louis Philippe, qui est notre voyant ce soir.
Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 1er novembre 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 2 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, ça y est, on est là, tout le monde est prêt. Alors, voilà l'expérience qu'on va faire avec l'accord de Jean-Louis Philippe. J'ai fait la proposition, il a accepté, c'est tant pis pour lui. Mais enfin, normalement, il doit savoir ce qu'il attend. Ou alors, c'est la négation même du truc. Donc, l'idée, j'avais déjà invité Jean-Louis Philippe à nous parler de son... Je ne sais pas si on peut parler de métier, de son activité, de son, de son sacerdoce.
Oui, sacerdoce, vocation également, oui.
De voyant, il nous en avait parlé, ça avait intéressé, ça avait suscité des débats, des conversations, des réactions et puis de la sympathie. Donc je lui ai demandé de revenir en lui disant, voilà, on va faire, je vais vous poser des questions, vous allez répondre, les auditeurs, ceux qui s'intéressent vont noter, à la fin, c'est-à-dire dans un certain temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, à mesure que le temps passera et que les événements arriveront, eh bien on pourra vérifier si oui ou non vous avez vu juste. Et puis à ce moment-là, chacun en tirera les conclusions qui lui plaît.
Exactement.
Et vous avez accepté ce pari, c'est pas courant. Donc la première question, alors c'est un peu dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. On parlera de l'international, de l'étranger et de la France. Hein. Alors commençons par l'étranger, puisque dans quelques jours, les élections américaines vont intervenir. Alors là, je vais vous poser une question, je sais que c'est pas amical, mais Bush ou Gore ?
Bush. Oui.
C'est clair, ça.
Bush, c'est clair.
Le dollar, il va continuer à monter, il va descendre, il va...
Dollar, pour l'instant, moi, je le vois continuer à monter. À un moment donné, il y aura bien sûr une stagnation, une légère baisse, mais je pense qu'ils vont essayer d'y apporter un maximum de maintenance à ce dollar.
Donc vous voyez le dollar monter et rester...
Baisser un peu. Ensuite, avec le temps, il continuera à rebaisser un petit peu progressivement. Mais cela dit, tant qu'ils vont essayer de pouvoir y apporter une maintenance réelle, par rapport à l'euro, parce que là, il faut savoir qu'il y a une certaine manipulation de boycottage.
Moi, qui suis pas voyant, je l'avais compris.
Exactement. Donc là, il est clair qu'il y a un intérêt pour que le dollar continue à monter et reste stable au moins pendant un certain temps.
Les relations avec l'Europe, elles vont être bonnes, mauvaises, elles vont s'améliorer.
Les relations avec l'Europe, bon, avec l'euro déjà une, je crois que c'est pas très bon. Pour moi,
quand vous dites c'est pas bon, l'euro va baisser.
J'ai l'impression qu'il va encore baisser. Hein.
Non, c'est plutôt bon, ça.
Bon, si on veut. Mais par rapport à ceux qui en attendaient quelque chose, c'est pas très heureux.
Ah oui, moi, j'en attendais vraiment rien.
Voilà. Et à mon avis, il risquera de remonter peut-être un tout petit peu avec ce début de printemps 2001, mais ce ne seront que des frémissements parce qu'à mon avis, je ne crois pas qu'on va arriver à un quota réel.
Donc Nicolas Bonnal, qui est un fou de spéculation, vous êtes informé, mon cher Nicolas, que si vous voulez faire une impression sur l'euro, il faudra...
Non, je ne crois pas.
Non, mais tout le monde spécule en ce moment. C'est évident que l'euro baisse parce que les banques empruntent en euros et remboursent en dollars. Elles font ça depuis un an et demi, donc il peut tomber à 2 euros pour 1 dollar, il n'y a pas de problème.
Il y a deux mecs qui savent tout à ce micro, c'est Plantet et Bonnal. Avec on les branche, puis ça y est, c'est fini, c'est même pas la peine de parler. Bon, donc voilà. L'Europe, ça va... comment ça va évoluer?
L'Europe, c'est-à-dire que ça va évoluer plus ou moins bien. C'est-à-dire que sur certains
plans... Vous engagez pas trop quand même là.
C'est-à-dire plus ou moins bien, je vais expliquer pourquoi, Serge. Parce que déjà une, ils vont essayer de revoir un peu certaines réformes par rapport aux normes, entre guillemets, européennes, qui vont sans doute essayer d'éviter certains problèmes comme nous le connaissons avec ces espèces de trafic au niveau de la navigation et qui nous entraînent malheureusement certaines pollutions, on en parlera après, parce que ce n'est pas fini non plus. Et il est vrai aussi que par rapport à tout ce qui concerne les problèmes de vaches folles ou d'autres formes de viande avariée ou d'autres pollutions diverses sur ce plan-là, parce que là non plus, ce n'est pas terminé. Alors il est vrai qu'il va y avoir... malheureusement. Alors ils vont essayer de rentrer dans certaines réformes pour mieux normaliser.
Bon, est-ce qu'il faut continuer à manger de la viande ?
Moi, très sincèrement, je continue à manger de la viande et même du bœuf sans problème. Parce que
et du porc plus,
du porc aussi, parce que je... Oui, c'est pas mauvais.
C'est bien. Non, c'était pour m'assurer que vous n'êtes pas musulman.
Et également le poulet, vous pouvez y aller, même s'il y a aussi certains problèmes, parce que nous allons encore avoir certains scandales qui vont continuer à éclater. Il n'y a pas tellement longtemps, on nous a annoncé, durant ce week-end d'ailleurs, que vous aviez plusieurs tonnes de cuisses de canard complètement avariées qui étaient prêtes à rentrer dans des conserves. Ceci se passait en France, et je pense qu'ailleurs, ça va être la même chose. Notamment, je ressentirai deux scoops à venir. Un qui va ressortir à partir de la Belgique, et un autre également en Allemagne. Alors en Allemagne, il y aura sans doute un problème de pollution ou d'intoxication, mais je ressentirai bien ça. Et ceci dans les mois à venir, entre maintenant et le printemps. Voilà.
Bien. Le caviar ?
Le caviar, vous pouvez y aller.
Caviar foie gras, pas de problème.
Oui, ça, on peut y aller.
Champagne ?
Pas de problème. Champagne aussi.
Moi, je mange que ça.
Les vins de Bordeaux également, si vous êtes amateur.
Oui, je crois que là, il n'y a pas de problème. Le Cahors, j'aime bien aussi.
Oui. Le Cahors, de l'Iran, ça.
Alors, ça va. Donc... Sur alors maintenant venons en France.
Oui.
Alors des questions précises. On a vu là récemment des manifestations diverses et variées dans les banlieues. Est-ce que vous voyez à court, moyen, long terme une véritable aggravation ou une stagnation ou une amélioration de la situation dans les banlieues?
Alors amélioration certainement pas, stagnation je dirais non, aggravation plutôt. Il est clair que par rapport à la violence que nous connaissons, que ce soit au niveau des banlieues ou des espèces de braquages que nous connaissons actuellement et qui vont être de plus en plus fréquents. Quant à cette violence dans les banlieues, le problème c'est qu'on s'aperçoit que pour maintenant n'importe quel prétexte, eh bien vous avez des voitures en feu, des saccages divers.
Ça va continuer
Ça va continuer, plutôt à s'aggraver.
Croître
et
embellir.
Voilà. Et à mon avis, il risque d'y avoir là aussi certains problèmes dans cette mauvaise période, parce qu'il faudrait que je rentre dans certains détails. Actuellement, depuis le courant octobre jusqu'à peu près février, début mars, nous allons dire, là c'est une période qui n'est pas très bonne, hein, une période de tension, beaucoup de négations, avec des problèmes durs que nous verrons tout à l'heure par rapport à des événements de guerre divers que nous connaissons déjà. Et il est clair que ce soit autant sur le plan de la France que sur l'international, c'est une période qui est très critique. Et il est vrai que nous allons assister à certains mouvements sociaux, des manifestations encore qui vont venir, les problèmes des 35 heures qui vont aussi revenir.
Vous allez trop vite pour moi, là. Parce que ça fait partie des questions que je vous posais. Le chômage va baisser, augmenter ?
Alors, Serge, il faudrait se mettre au point. qu'est-ce qu'on entend par chômage qui va baisser ou augmenter?
Parce est-ce que le pouvoir va reconnaître que le chômage n'est pas, le problème du chômage n'est pas en voie de solution?
Ben, c'est-à-dire que oui, à mon avis, lorsque l'on nous dit que le chômage baisse, moi je veux bien, mais dans tout ceci, je n'y crois pas vraiment, parce que je ne crois pas à une réelle reprise économique actuelle, ça c'est faux. Pour moi, il y a une reprise économique à partir de toute société qui a un grand rapport avec le commerce extérieur et donc l'étranger, mais tout ce qui concerne l'économie interne à partir de toute société qui a un trafic avec l'économie simplement que nationale, là il y a un réel et très gros problème. Alors je ne pense pas que l'on aille véritablement vers une amélioration sur ce plan-là. Bon. Par contre, sur toutes les sociétés qui ont ce rapport, je le répète, avec le commerce extérieur, là oui, c'est clair.
D'accord. Et les 35 heures, ça va marcher ou pas?
Je ne pense pas, très sincèrement. Nous allons encore vers d'autres problèmes et je pense que c'est un cafouillage général qui va continuer à s'aggraver.
Des grèves, on va avoir beaucoup de grèves, pas beaucoup de grèves?
Alors oui, parce que nous allons dire que Madame Guigou va essayer de faire un certain travail. Cette personne va faire tout ce qu'elle peut, mais cela dit, nous allons avoir certains problèmes de grèves, notamment au sein des acidiques également. Il va y avoir aussi certains problèmes au niveau de la sécurité sociale et de tout son personnel, sans parler d'autres problèmes divers et variés.
Les questions climatiques, on a eu. Maintenant, on est très étonné. Il pleut en hiver. Il arrive à neiger au mois de janvier. Il y a des tempêtes en septembre. Des phénomènes climatiques aberrants. Ça va continuer ou est-ce qu'on va avoir 27 alors, degrés toute l'année avec un ciel bleu
et un des vraies catastrophes. Mon très cher Serge, je vais vous dire, il va falloir s'apprêter quand même à connaître à l'heure d'aujourd'hui certains gros problèmes à ce niveau-ci. Et surtout une organisation. Parce que voyez-vous, par exemple, avec la fameuse tempête qui a encore touché notre pays durant ce week-end, il faut savoir que les compagnies aériennes et tout le trafic aérien est complètement perturbé. Perturbé parce que le personnel ne peut pas être partout, c'est pas possible, il faut aussi les comprendre. Et même si on reste bloqué, comme je l'ai été pendant plus d'une heure et demie, mais d'autres personnes...
Ça, c'est un mauvais point pour vous, vous auriez pu le prévoir quand même.
Le fait est, on aurait pu le prévoir. Mais vous savez, on n'est pas toujours dans cette forme de réceptivité des choses, mais il est clair que par rapport à cela, bon, il faut s'attendre à de gros problèmes, des gros problèmes de tempête qui vont continuer à évoluer, et en même temps, des problèmes divers avec, et des torrents de boue, et des inondations, enfin c'est peut-être un petit peu apocalyptique ce que je suis en train de vous dire, mais malheureusement c'est strictement la vérité, et il ne faut pas s'attendre à une réelle amélioration sur ce plan-là. Alors, est-ce que tout ceci vient des problèmes également du trou d'ozone et aussi d'avoir des traqués un peu notre planète, je le pense très sincèrement.
Alors, puisqu'on en est aux bonnes nouvelles, est-ce que ça va continuer en Palestine ou est-ce que ça va s'arranger?
Alors,
sur le plaisir pour une fois.
Sur le plan de la Palestine, je crains à de très dures tensions, une très grande remise en cause du gouvernement israélien. Et de l'autre côté, pour moi, il peut y avoir un éventuel mieux de fin novembre à courant décembre, mais pas de réelles améliorations.
Donc pour les vacances
à Eilat,
c'est
novembre,
fin.
Pourquoi vous conseillez Pertilia? Vous exagérez.
Mais je ne connais pas bien. Faut dire.
Par contre, si je peux ajouter, il peut y avoir une éventuelle amélioration vers le printemps 2001 et je dirais que c'est un problème qui peut trouver sa solution entre 2001 et 2003. Voilà.
Bon, donc 6 Palestiniens au tapis par jour, ça nous en fait combien d'ici la fin du programme? Il faudrait calculer rapidement, ça fait quand même pas mal. Hein. Est-ce qu'on va nous découvrir des nouvelles petites maladies sympathiques? Parce que là, ces temps-ci, on a eu comment appelez-vous ça, docteur?
Creutzfeldt-Jakob.
C'est encore un truc antisémite. Comme par hasard, une maladie qui a un nom, c'est absolument scandaleux. C'est ça. Pourquoi ça s'appelle pas le Merci Leroux?
Mais... Hein? Le virus a été découvert par
prix Nobel qui lui avait un nom moins marqué.
Et comme je te dis, tous les prix Nobel, ils en sont, donc c'est terminé.
Alors voilà. Donc, sur ce plan santé, donc Creutzfeldt-Jakob, ça on sait, maintenant il y aura autre chose, on peut espérer...
Autre chose, peut-être pas, mais Creutzfeldt-Jakob le fait est une belle évolution. Faire très attention au virus Ebola. Actuellement, qui galope en Ouganda et il n'a pas fini à mon avis. Donc là, ce sont quand même certains gros problèmes et à prendre en considération. Alors au niveau sanitaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer à assister à certains problèmes de viande avariée, etc. Donc ça qui peut nous amener aussi certains...
Quelques empoisonnements dans les banlieues pauvres. Parce que c'est quand même que les pauvres qui mangent de la mauvaise viande des riches, ils ont les moyens de s'acheter des...
Les riches sont végétariens.
Répondrai pas.
Donc,
et bouddhistes.
Hein. Auditeurs pauvres, méfiez-vous de la viande que vous allez manger. Et en Côte d'Ivoire, à propos de viande pauvre...
Alors en Côte d'Ivoire, je dirais que attention à d'éventuels affrontements interethniques. C'est déjà pas mal commencé, puis c'est pas fini, hein, malheureusement.
En Espagne, est-ce que l'État va continuer sa démarche de...
Oui, là il y a des mouvements qui vont se durcir et l'État va vers de nouveaux attentats sans aucun problème.
Donc c'est on sait déjà, grâce à vous, qu'il ne faut pas aller en Palestine avant le 2003, il faut mieux pas aller en Espagne, il vaut mieux éviter la Côte d'Ivoire. Tout le nord.
On le sait aussi en regardant la télé.
Du tout de l'ozone. Oui, mais c'est intéressant de savoir que ça va continuer. Donc il faut éviter le pôle nord à cause du trou d'ozone.
Oui, et puis l'Antarctique également. Voilà.
Alors,
mais j'ai aussi d'autres choses sur ce plan-là à vous donner, si vous voulez, parce que j'ai ressenti certains gros problèmes, toujours au niveau de l'écologie, qui va toucher une partie de l'Est de notre planète en partant de la France. C'est-à-dire que tout ce qui va être à l'Est, alors l'Est de la France, ensuite tout ce qui est en rapport avec l'Inde, la Chine, l'Asie, là, il risque d'y avoir aussi de gros problèmes écologiques au niveau d'inondations et d'irruptions diverses d'ailleurs, parce que je ressentirai ça, et il y aura sans doute aussi la remise en cause d'un barrage, à mon avis, à cause justement de...
Vous voulez dire une rupture de barrage
qui... Oui, j'ai l'impression.
Le prix du pétrole va baisser,
J'ai l'impression que pour l'instant il va être toujours à la hausse, ce qui va être un sacré problème également par rapport à l'Europe.
Est-ce que vous allez nous donner une bonne nouvelle? Est-ce qu'on va avoir la guerre par exemple?
Non, la guerre non.
Décidément, on ne pourra pas lui enlever une bonne nouvelle.
La guerre, il n'y aura pas la guerre. D'ailleurs, nous dirons que Poutine actuellement essaie d'ouvrir de bonnes alliances avec l'Europe, la France. Il va essayer de se rapprocher également des États-Unis, et tout ceci pour essayer de redonner une certaine forme de rebondissement à son économie.
Et alors, je vais vous poser une question pour finir. C'est un cadeau que je vous fais, parce que là, vous êtes absolument sûr d'avoir juste. Est-ce que Séguin sera maire de Paris?
Ah, alors là, justement, très très bonne question. D'ailleurs, je me suis posé à un moment donné, est-ce que c'était une position suicide ou commanditée? Donc, c'est clair que Séguin ne sera pas maire de Paris. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est
pour... Ça, c'est autre chose, c'est de la politique.
Oui.
Qui sera maire de Paris?
Elle est formulée autrement, je peux la donner. Alors, comment voyez-vous l'hôtel de ville? Délocalisé dans l'île Séguin, dans la péninsule ibérique, ou complètement submergé et vivotant dans l'arche de la Noé?
Excellent.
Du traître, il faut l'inviter, cet auditeur.
Excellent, excellent. Alors, si vous me permettez, Serge, j'aimerais qu'on fasse passer un petit peu de temps, et si on doit se revoir, à ce moment-là, on parlera davantage sur le plan des municipales, ce que l'on peut dire à ce niveau-là.
Ah, d'accord. Ok, alors vous réfléchirez spécialement sur les municipales.
Exactement.
Bon, pour l'instant, donc, vous nous avez dit, Bush sera président des États-Unis. Les relations avec l'Europe vont plutôt s'améliorer. L'euro va continuer à baisser. Il va y avoir des émeutes dans les banlieues. Oui. Le chômage ne va pas s'améliorer. Non. Les 35 heures vont provoquer des problèmes graves pour les entreprises.
Oui.
Il y aura des grèves nombreuses. En Palestine, pas de mieux avant 2003. Se méfier de l'Ebola.
Oui.
C'est-à-dire, ne vous approchez pas trop des aéroports.
De Julius Ebola.
De Julius Ebola, bien entendu. Problème climatique, il y aura du vent. de la pluie et de la neige.
Et d'ailleurs, à cet effet, il faudra faire attention avec les assurances, parce que par rapport à cela, il risque d'y avoir encore plusieurs tuiles qui s'envolent et qui sont arrachées.
Si, j'ai pas besoin d'un voyant pour savoir que la plupart des assureurs sont des escrocs quand même. J'ai dit la plupart, pas tous, il y a des assureurs honnêtes.
Non, mais ça va être
d'ailleurs, si vous avez des noms, donnez-les-moi, ça m'intéresserait. Voilà, alors... Vous invitez un voyant le jour de la Toussaint, Serge de Bekech, la Bible interdit la voyance. Alors, hier, Halloween, aujourd'hui, un voyant, on n'arrête pas d'agresser les catholiques.
Est-ce que je peux me permettre de répondre à cela? Parce que justement, je voulais dire quelque chose par rapport à la Toussaint, Serge. Alors justement, pour répondre auprès de cet auditeur, alors là, je crois auditrice, alors il faudrait peut-être revoir un petit peu certaines choses. La Toussaint, qu'est-ce que c'est? La Toussaint, c'est une fête très joyeuse, très gaie.
C'est ce que j'ai dit.
On a fait une fête plutôt morbide qu'autre chose. Et au niveau de la Toussaint, c'est pour célébrer tout le cortège des saints. Et également de célébrer, par rapport à cela, la particule de sainteté qui demeure dans tout être humain et qui nous rattache à ce cortège. Et pour répondre également à cette auditrice, il faudrait peut-être qu'elle revoie un petit peu ses classiques et qu'elle revoie un petit peu l'histoire de Don Bosco, entre autres, de Saint Jean-Marie Vianney, dit le curé d'Ars, et d'autres également, qui furent de très grands saints et très reconnus.
Et voyant. Encore que le curé d'Ars n'aimait pas du tout avoir des...
Ah si, si, si. Il ressentait des choses.
Oui, il n'aimait pas ça.
Il ressentait des choses. Et par rapport à la voyance, il faut savoir comment elle... la façon dont elle est pratiquée et partagée. Et je l'ai déjà dit une fois, si c'est pour apporter justement une certaine forme de lumière à l'être et d'essayer de l'aider à avancer davantage, eh bien je pense que c'est bien. Et puis il faut savoir que moi tous les jours, je me remets sous le regard de Dieu avant de commencer quoi que ce soit en disant: Seigneur, je t'offre ma journée et fais que je puisse apporter la lumière et la réponse à tous ceux que je vais recevoir. Voilà.
Merci Jean-Louis Philippe. Alors, si vous avez des questions à poser à Jean-Louis Philippe, si vous voulez le voir, si vous voulez, puis... Quand vous aurez vérifié la validité de ces pronostications, vous pourrez lui téléphoner. Alors, je vous donne le numéro de téléphone, on peut ?
Ah, bien sûr.
01 42 25 01 34. 01 42 25 01 34. Donc, madame, si vous voulez lui expliquer que ce qu'il fait n'est pas conforme à la... Comment dirais-je ?
Doctrine.
À la doctrine, à la bonne doctrine, merci docteur. Eh bien, vous l'appelez au 01 42 25 01 34 et vous lui dites: va des rétro... comment déjà ?
Satanas.
Satanas.
Aruspice.
Voilà. Aruspice. Il va des rétro. Aruspice. Est-ce qu'une Jeanne d'Arc va sauver prochainement la France ? C'est peut-être une question un peu lourde pour finir.
Oui, c'est un peu lourd. Bon. Là. Non, c'est pas une chose que je ressens spécialement.
Dans l'immédiat. Merci Jean-Louis Philippe.
Je vous en prie, Serge.
Ça, hein, triste, je trouve. côté dame irlandaise, irlandais, non ? Celte. C'est un petit peu ennuyeux. Bon, et ben, donc on a arrêté, voilà. Alors, Victoria, vous avez des questions à poser ?
Oui.
Au docteur Plantet, avant que nous commencions notre entretien.
Oui, des auditeurs avaient demandé, alors que pensez-vous de la Bible du chanoine Hostie ? Le docteur Plantet a dit très bien.
C'est une bonne Bible, oui.
Oui, comme Daniel de Raffard de Brienne est parti, c'est François Plantet qui connaît un petit peu la Bible aussi, qui répond gentiment.
Une Bible de Jérusalem, édition 56. Elle est bonne.
Oui, c'est bon.
Une Bible du chanoine Crampon, traduction révisée par le père Bonsirvin.
Oui, Bonsirvin, c'est un dominicain d'origine israélite, d'ailleurs, qui touchait sa bille, donc c'est de très bonne qualité.
Ouais. Ça, c'est quand même une appréciation assez rare dans les milieux de la haute théologie.
L'expression « Dieu vit que la lumière était bonne » est-elle bien la traduction exacte du texte de référence parce qu'elle implique un certain degré d'incertitude dans la création.
Non, c'est « Ve'yare Elohim » qui tov, et c'est exactement, on peut pas traduire, c'est le verbe voir, et Dieu vit que la lumière était bonne, hein. Ça ne traduit aucun.
Ça veut dire qu'il n'était pas sûr.
Ce que veut dire cet auditeur, c'est que Dieu
crée. Il l'a d'abord créé, et puis après, il vit qu'elle est bonne, mais il aurait pu voir qu'elle était
mauvaise. Parce qu'au niveau des énergies ad extra, là, comme disent les orthodoxes, Dieu porte un jugement, parce que dans Dieu, il y a Elohim, Yahvé, et plusieurs formes de Dieu. Hein. Il y a le Dieu qui porte pas de nom, la théarchie suressentielle de Maître Eckhart. Et là, c'est Dieu en trois personnes, celui qui crée, lui, les dieux, hein, qui reconnaît que son œuvre est bonne, mais il reconnaît que son œuvre est bonne comme il s'aime lui-même dans ces trois personnes. Il n'y a aucune espèce de doute à aucun moment, quoi. Hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, il dira même que c'est très bon. Tov Meod.
À quel moment il dit ça?
Vers la fin du paragraphe 9, il me semble, la première.
Parce qu'il y a une fois où il ne le dit pas.
C'est le deuxième jour.
Le deuxième jour.
Yom Sheni. Hein, il y a encore une histoire compliquée, parce que le premier jour, au lieu de dire Yom Rishon, qui voudrait dire en hébreu le premier jour, comme on dit Rishon, Shne, etc., il dit Yom Echad, c'est jour 1, parce qu'en fait, il y a un seul jour dans la création. Il est unique.
Donc il n'est pas premier, c'est le 1.
Voilà, c'est le 1, c'est jour 1.
Il devient premier quand le deuxième existe.
Et le deuxième, c'est on rentre dans le binaire, donc ça devient dangereux. Ben, c'est le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui.
C'est une bonne introduction au sujet qu'on va évoquer, puisqu'on va parler d'Internet. Par essence, le problème du binaire.
Exactement.
Et alors, j'avais encore une petite question pour le docteur Plantet. Pouvez-vous m'aider à résoudre une énigme qui me tarabuse depuis 27 ans ? Que veut dire, en écriture phonétique, Levin, en hébreu, ou Levin ?
Alors, dit comme ça, c'est complexe parce que on peut imaginer plusieurs formes. C'est, par exemple, le premier Lamed, là, ça peut être un article qui change la signification du nom. Alors, on va prendre les consônes, Lamed Nun Mem, Lamed Vav Nun plutôt, Lavan, qui c'est une racine qui veut dire la lune, une des racines, parce que ça se dit aussi Yarear, ou blanc, hein, comme Laban, la vieille crapule qui fait des tours de cochon à Yaakov. Mais ça veut dire aussi, si on considère que la première consonne est une particule ajoutée, ça peut être une racine de la sagesse. Ça veut dire quelque chose qui dirait comme les avines, comprendre. Hein. Bina, le V et le B, c'est interchangeable en hébreu, suivant qu'on met une particule à l'intérieur, le dagesh. Donc ça pourrait être un verbe qui signifierait quelque chose sur la connaissance. Et on peut pas en dire plus parce que c'est trop, il faudrait qu'il y ait un contexte, quoi.
Il faut le contexte.
Voilà.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que s'il s'agit d'un nom, Levin, c'est très souvent le nom, la transformation anglaise ou américaine du nom juif Levi.
Levi, hein, qui est le Lévite. Hein,
donc,
bien sûr,
qu'on dit hein, divine. Hein.
Et aussi, le premier début, Lev, ça veut dire le cœur en hébreu, hein. Voilà. Et iné, à la fin, ça voudrait dire voici mon cœur, par exemple. Hein, tout dépend de la façon, hein, du contexte.
Vous êtes d'accord, monsieur Seydor? Dès qu'on commence à parler de choses...
Suave Marie Magno.
Ça y est, il dort. Donc, Nicolas Bonal, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le docteur? Il s'est passé. C'est inquiétant parce que je comptais sur lui pour faire quand même la deuxième moitié de l'émission.
Je vais en profiter sournoisement pour demander, donner les références du disque passé à la pause qu'on me demande. Alors c'est Celtic, la Camerata de Paris, et c'est un disque DOM, CD 1433. Et puis, bah, c'est tout pour le moment.
Mais alors, je vais lire quand même les injures.
L'imposture antiraciste d'Henri de Fersen coûte 200 francs et on peut la commander à la boîte postale 18, 63 670, Le Sambre. Et puis, la Vulgate est traduite par un abbé, mais quel abbé, vous êtes au courant?
Non, je le connais.
Je ne comprends pas. Beketch, par ailleurs si intéressant et intelligent, c'est très aimable d'inviter de temps en temps des charlatans. Cette émission est un peu bizarre et même ridicule pour quelqu'un qui se dit catholique. L'Église s'oppose à que ces trois messages, hein, à la consultation des voyants, vous vous disqualifiez. Voilà. Bon, qu'est-ce que
carton mais, rouge.
Carton rouge.
Carton rouge.
C'est exactement, carton. Bien. Alors, j'ai demandé à Nicolas Bonnal de revenir ce soir quand il voudra bien rejoindre notre sympathique assemblée pour parler de son livre. Alors, c'est désolant parce qu'il n'a pas du tout envie de parler de son livre, étant donné qu'il l'a déjà écrit.
Nous avons les moyens de le faire parler.
Alors, par précaution, j'ai demandé au docteur Planté de venir aussi. Parce que ce livre qui s'appelle L'Internet, nouvelle voie initiatique et qui est paru aux éditions des Belles Lettres est un livre particulièrement passionnant et particulièrement bienvenu dans la mesure où il inscrit le phénomène Internet dans une perspective totalement nouvelle, totalement inédite en tout cas dans ce milieu, qui est celle de la tradition. Comment Internet, en réalité, semble être une espèce d'avatar de la tradition, ou une nouvelle manifestation, ou une caricature de la tradition. Alors, tout à l'heure, François Plantet a évoqué, la question passionnante du deuxième jour de la Genèse, le jour où le système binaire intervient.
Oui. Alors,
Internet est fondé d'abord sur le système binaire.
C'est clair.
Et puis, l'autre aspect intéressant, c'est que le premier mot de la Bible, c'est Bereshit.
Oui.
Et qui évoque l'idée du réseau.
Oui. Oui, parce que Bereshit, donc c'est-à-dire B, c'est dent, et Reshit, c'est une forme construite, donc comme un génitif saxon. C'est-à-dire une bizarrerie de la Bible, parce qu'il devrait y avoir à côté un autre nom. Hein. C'est comme John's Corner, par exemple. Il devrait y avoir un autre nom. Il n'y est pas. Hein. Donc déjà, c'est un truc compliqué que Rashi commente subtilement. Mais donc Bereshit, c'est vraiment dans la tête, dans le principe, puisque Resh, c'est la tête. Hein. Donc c'est bien, c'est pour ça que notre ami Chouraki...
Il faut parler par au commencement.
Voilà, mais en fait, c'est pas le commencement, c'est comme enarché en grec. Hein, c'est le principe, parce que le commencement en hébreu, c'est matril, c'est un commencement temporel. Là, c'est pas quelque chose qui commence dans le temps. Il y a rien, et tout d'un coup, quelque chose se produit. Et ce quelque chose, d'ailleurs, il sort du mystère, puisqu'il n'y a pas, le père n'apparaît pas, le aleph n'apparaît pas, c'est la deuxième lettre, le bet, qui crée, quoi. Hein. Mais Reshet, alors, la subtilité de l'hébreu, c'est que, comme c'est basé surtout sur ses racines trinitaires, les consonnes sont interchangeables et permettent une souplesse extraordinaire. Reshet, ça veut dire réseau, en hébreu, hein. Reshet Hanouyot, par exemple, en hébreu, ça veut dire des magasins, succursales. Donc on peut très bien traduire par le réseau, Dieu créa. Hein, comme si Dieu, effectivement, à partir d'un point initial, constitue un immense réseau. Ce qui apparaît dans la glose du Zohar, donc le Zohar, le livre de la splendeur, est un commentaire mystique de la Bible qui fait partie du Talmud, hein, qui apparaît vers le 14e siècle, mais qui est visiblement très très ancien parce qu'il est écrit dans un araméen jérusalémite très pur. Et la glose du Zohar dans cette partie dit dans l'éther vide, eitir, hein, ça se dit en araméen, donc c'est vraiment l'éther. Hein. Dieu émit le point initial Et ensuite, ce point se développe. Alors, il crée les couleurs et il grave des choses. C'est important. D'ailleurs, Galif, Galifa. Hein, donc, Dieu grave dans cette espèce de tissu qu'il a déployé. Il grave sa création. Il met son empreinte. Hein. Son empreinte, d'ailleurs, qui apparaît dans les finales des trois premiers mots de la Bible et qui donne Emet. Hein, si on prend ces mots-là, ça donne Aleph, même Tav, qui veut dire la Bible. Et les rabbins disent c'est le sceau de Dieu qui est marqué sur sa création. Hein, parce que faut savoir que quand on rentre dans la lecture de la Bible hébraïque, c'est un monde absolument incroyable et qui nécessite beaucoup d'efforts et puis une énorme modestie, quoi, parce que enfin il faut rester à sa place, quoi.
Alors Nicolas, comment quand tu commences à écrire, quand tu commences à travailler sur ce livre, l'internet, la nouvelle voie initiatique, presque au début du livre, c'est évident que tu réalises tu constates cette espèce de ressemblance entre le processus de la création et le processus de la création de la Genèse et le processus d'invention d'Internet. D'ailleurs, tu cites une espèce d'incroyable caricature de la Genèse qui est faite par un des fondateurs d'Internet, c'est-à-dire un fondateur
Arpanet,
d'Arpanet,
Danny Cohen,
et qui commence par au début était l'Arpanet,
oui.
Enfin au commencement était l'Arpanet, et qui donc dans un discours de présentation de son programme, de son travail, fait cette espèce de caricature du premier livre de la Genèse. Comme pour marquer alors qu'il y a une volonté déterminée de caricature et de copie et de singerie.
Oui, il y a peut-être aussi un humour, hein, tout simplement, au second degré de Danny Cohen. Il a prononcé cette conférence en 1989. Et donc on sait qu'ARPANET, c'est le programme de l'armée américaine qui annonce la naissance d'Internet, où il s'agissait de regrouper en réseau l'ensemble des ordinateurs. Alors, ce qui m'a frappé en étudiant, entre autres, l'histoire d'ARPANET, c'est de savoir... Moi, j'ai sorti il y a mes 2 ans d'un livre sur Tolkien. C'est à voir que leur livre de chevet, c'était pas la Bible, mais c'était Le Seigneur des Anneaux.
Le livre de chevet des inventeurs
d'ARPANET, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors ça, c'est dans le livre de Hafner et Lyons, Les Sorciers du Net, qui était sorti aux États-Unis il y a 2 ans, que c'était dit. Et Vint Cerf, qui a été récemment consulté pour l'affaire Yahoo, aussi est un grand fan de Tolkien. Alors chez Tolkien, j'en ai parlé il y a 2 ans, il y a une volonté, là encore, démiurgique. Alors je sais bien que ça plaît pas à tout le monde ici ce mot, mais enfin démiurgique au sens fort du terme, de création d'un monde en marge, un monde purement basé sur l'imaginaire. Dans le cadre d'Internet, c'est au départ un monde fondé sur la technologie, mais qui parodie et recycle, au sens contemporain du terme, assez vite, le discours de la création même. Alors, par rapport à ce qui était dit à l'instant, François parlait du point. Moi, je fais tout un chapitre sur le point, parce que toute cette nouvelle économie dont on nous rebat les oreilles, un peu moins depuis le krach boursier, mais elle est fondée sur le point. C'est .com, donc j'ai 3 pages sur expliquer dans le livre ce qu'est un point diacritique, ou c'est ce que les anglo-saxons appellent les .com, donc les compagnies point, c'est-à-dire toutes ces compagnies qui se développent dans le monde numérique, c'est-à-dire dans le monde immatériel. Alors ce qui caractérise Internet, c'est justement que ça devient une économie de l'immatériel et une économie de la noosphère, au sens de notre bien-aimé Teilhard de Chardin. Donc là, ce qui se développe,
d'ailleurs,
c'est la technoosphère.
À propos de la noosphère, il faut remarquer que une des grosses boîtes mondiales...
Oui, alors ça je le dis sur ma 4e de couve... Mais c'est qui est assez curieux, enfin c'est pas du tout curieux, c'est que c'est pas du tout. Alors certains vont dire que j'ai délire, mais je n'ai pas déliré puisque eux-mêmes se désignent comme ça. SFR, c'est Saphira, c'est le chiffre.
Oui, c'est le chiffre.
Nos, c'est l'esprit en grec.
Yahoo,
j'en parle, c'est une manière d'invoquer Yahvé et en même temps de faire référence évidemment aux Yahoo qui se nourrissent de vaches folles.
Oui, absolument.
Les gens n'ont qu'à lire Gulliver. Bande de cons. Ils n'ont qu'à lire Gulliver.
Ça y est, c'est
non, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, il faut lire. C'est tout ce qu'on demande. Et les gens ne lisent pas.
quand on lit le mythe de Faust, quand on lit l'histoire de Cain et d'Abel, c'est lié également à un drame qui est lié à l'affrontement de la technique. C'est-à-dire Cain et Abel, c'est le passage du nomade au sédentaire, et le mythe de Faust est lié à l'imprimerie, c'est-à-dire à l'ère typographique. On est à la fin de l'ère typographique, confère McLuhan, on arrive à l'ère numérique, l'ère de l'animal tacheté presque, hein, je pense, Namr, quelque chose comme ça. Donc à l'ère où effectivement Jacob combat Laban avec ses fameuses baguettes, et avec cette idée qu'on va numériser totalement le réel, et entrer dans un monde nouveau qui rejoint tout le discours de l'initiation, puisque même le terme de chaîne, on le retrouve dans canal, hein, canal plus, un terme qu'on retrouve évidemment chez Job, le channeling, tout ça, bon, du New Age, tout ça, c'est un discours très ancien qui est recyclé dans l'économie contemporaine.
Là, on est au cœur de la copie, de la caricature, de la singerie.
Oui, mais moi, je vois pas Internet que comme un phénomène négatif. Si j'ai à choisir entre Internet et la bagnole, je choisis Internet et de très loin. Et je veux dire que Internet, c'est essentiellement le problème d'Internet. Depuis que j'ai écrit ce livre, je vois plein d'articles qui s'en inspirent sans le citer, à part dans Le Monde où j'ai été cité sur une demi-page, et qui est assez curieux, enfin tant mieux, même si ça sert à rien en définitive. Mais c'est ce qui explique le développement d'Internet et des TMT, notamment au niveau boursier, c'est l'explosion de la durée de la vie de l'homme. Et donc, ce type de phénomène d'angoisse ou de dépression qui était à l'époque réservé à une élite, comme Sénèque, qui en parle plusieurs fois dans les lettres à Lucilius, sont aujourd'hui réservés à tout le monde. Donc, je le dis dans le livre, en 1800, un homme à l'âge adulte avait 2 ans de vie oisive. Aujourd'hui, on en est à 25. Donc, il faut meubler ce temps. Il faut meubler ce vide, cette angoisse terrible. Alors, on vit à une époque, je parlais de la voiture, où avec le circuit, avec l'accélération des transports, on a exterminé l'espace, encore plus que le temps. Par contre, on a une amplification des valeurs temps. Et ce temps, c'est justement le téléphone portable, c'est le portail Internet, c'est le vis-à-vis, et c'est les médias, la télévision. C'est-à-dire qu'on va nous vendre du temps. Alors maintenant, c'est assez amusant, on parlait du nom. Alors Bouygues, par exemple, qui est patron de TF1, donc il a une filiale des eaux dont François est client, d'ailleurs on en avait parlé une fois, qui s'appelle Saur. Donc comme on retrouve tous les dinosaures, tous les saurons de Tolkien, pourquoi avoir appelé ça Saur, je sais pas, je leur ai pas demandé, mais c'est amusant de le noter. Et l'autre pendant, c'est le forfait nomade de Bouygues. Donc là on retrouve la parodie du nomadisme également biblique. Mais ce qui est amusant, c'est que dans les nouveaux forfaits Bouygues, on vend 10 secondes de pub pour te faire diminuer le prix. Donc on vous achète du temps. Alors on est en plein conflit.
C'est un aspect intéressant aussi, c'est que on a remplacé la dimension territoriale par la dimension temporelle. On vend plus d'espace, on n'occupe plus d'espace, puisque c'est vrai que
l'espace n'a plus d'intérêt.
L'espace n'a plus d'intérêt. Le gars qui est devant son ordinateur, il tient à peu près un mètre carré de surface. Ouais. Et puis il a en revanche un espace virtuel immense qui s'offre à lui. Il peut aller absolument n'importe où dans le monde pour voir d'ailleurs que c'est à peu près toujours la même chose. C'est-à-dire que étonnamment, quand on regarde les webcams du pont de Brooklyn, on trouve que ça ressemble curieusement au webcam du pont de Saint-Cloud. C'était vraiment pas la peine de se faire autant de soucis pour voir aussi peu de choses, mais c'est comme ça. En revanche, le nouvel espace, c'est le temps. La nouvelle marchandise, c'est le temps. Or, il faut savoir quand même que moi, je l'expérimente pratiquement tous les jours. Internet, c'est un dévoreur de temps phénoménal. C'est-à-dire que on passe des heures, littéralement, à essayer de trouver l'information qu'on cherche. Et on en parlait tout à l'heure avec François, qui me disait que quand il cherche une information sur une question médicale, en 10 secondes, vous la trouvez dans votre bibliothèque. Oui, alors que si vous voulez
s'il fallait interroger une banque de données, ça prend 3 heures.
C'est ça.
Hein, par des manipulations invraisemblables, on tombe jamais dessus. Parce que celui qui a entré l'information celui qui a classifié le sujet scientifique, il l'a fait suivant des critères qui sont imprécis, le râteau
qui sont ces critères,
hein, et qui seront, vous n'avez pas forcément trouvé le point que vous cherchez sur la neurochimie du cuivre. l'appellation cuivre. Ouais, ça va se trouver dans un article sur les coléoptères de l'université de Chicago où ça paraîtra avoir aucun rapport, et en fait tout l'article sera consacré au rôle de coenzyme métallique. Enfin ça, oui, c'est une expérience que j'ai avec mille fois,
quoi. Mais pour revenir à la question du temps,
oui,
comment est traité le temps dans la Bible? Quelle est l'importance? Est-ce que ça a réellement une importance?
Le temps, c'est une sorte de malédiction, parce que s'il faut répondre, Adam et Ève rentrent dans le temps, quoi, en quelque sorte.
Avant le péché original, il n'y a pas de temps.
Bien sûr.
Ils vivent dans
l'état idéal, c'est ce que dit Maître Eckhart. Il y a un espace, bien sûr, Maître Eckhart dit, la création, c'est un instant éternel. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'y a qu'un seul instant, quoi. C'est pour ça que c'est un point, c'est tout, si on peut dire. C'est pour ça que le yod, qui est la lettre point, qui est la lettre 10 de l'aide de l'unité, représente la totalité, hein. On revient aux bases d'une création artificielle, quoi, une crapulerie, quoi. Et la tendance de l'être humain, quand on dit autant suspend ton vol, enfin toute la poésie de l'amour, c'est ça. Ça donne une dimension d'éternité à quelque chose qui s'arrête de couler. C'est la même chose pour les drogues toxicomaniaques, par exemple. Leur effet principal, c'est pas tellement d'euphoriser les gens, c'est d'arrêter la sensation du temps qui passe. Et autrement dit, d'obtenir par effraction ce qu'on obtient par l'ascèse. Ce qu'appelle Maître Eckhart dit, quand on est dans un état de prière absolue, on est effectivement dans l'éternité, on est dans l'extase. Donc le temps est une malédiction, et elle apparaît encore plus sous une forme cocasse et niaise dans ces ordinateurs qui mettent une machinerie invraisemblable pour vous sortir. Par exemple, avant, les billets d'avion les plus compliqués, on les faisait en 20 minutes. Maintenant, vous faites un surclassement pour New York, il y a trois quarts d'heure de manip avec les gens qui s'interpellent de comptoir en comptoir. Quand je fais STO, est-ce qu'il faut appuyer sur Enter ou machin? Enfin, vous connaissez ça comme moi, hein. Au bout d'un moment, c'est insoutenable, hein.
Alors, cette importance du temps de comme produit vendu,
oui,
par Internet, est-ce que ça veut dire que ce produit temps remplace le produit espace, aussi bien dans les négociations, dans les affaires, je dirais, que dans le paysage traditionnel? La Bible a un paysage traditionnel qui, on vient de le dire, est essentiellement fondé sur l'espace.
Sur l'espace,
notamment le paradis,
oui,
a un espace qui est délimité, c'est un lieu,
c'est
avec
clair,
quatre fleuves, etc., alors qu'il n'y a pas de temps. En revanche, la parodie,
oui,
de l'écriture que peut être, par certains aspects,
oui, oui,
Internet, il n'y a pas d'espace du tout, il n'y a que du
pas
temps.
Pas du tout. L'autre ne peut pas créer d'espace, il est lui-même un être binaire, puisque au départ il a encore des pieds, donc ça va être un dinosaure, et Dieu dit, puisque c'est comme ça, tu ramperas sur ton ventre, donc il lui enlève les pieds. Donc la troisième dimension, qui d'après Aristote et puis d'autres commentateurs est la marque du réel et du vrai, hein, on revient toujours au troisième jour de la création, cette troisième dimension n'est qu'une illusion d'optique dans la machinerie informatique. C'est quelque chose de même que l'image elle-même est une illusion formée sur des successions de points. Hein, et le cinéma l'est moins. Hein. Mais l'image électronique, oui, et on peut faire n'importe quoi avec. Et c'est en quelque sorte, comme on disait tout à l'heure, des séries de grains de sable groupés qui donnent des impressions. Hein. Et or, très extraordinairement, les vieux rabbins comme le rabbi Jikatilia de Béni Mémoire dit dans son introduction à Charé Ora, les portes de la lumière, il dit, méfie-toi de la voix, ne prends pas la voix du sable, c'est la voix du serpent, le serpent est l'homme qui... Or, on peut constater que dans le domaine d'Internet, on manipule de l'électron qui est de la poussière, en quelque sorte, et dans la construction, c'est le béton qui est du sable coagulé. Comme disait un auteur, c'est peut-être Marcel de Corse, parce qu'il disait, on ne rend pas grâce à Dieu avec de la poussière coagulée. Or, dans les deux cas, on a le plastique serait à voir aussi un petit peu comme ça. Donc, on a une caricature fondée sur du rien, quoi, en quelque sorte, hein, parce que c'est vraiment du rien, et avec comme corollaire une contraction de l'espace invraisemblable, alors que les civilisations anciennes étaient des civilisations de l'espace. Ça se voit bien. D'abord, la vie des patriarches a été beaucoup plus longue. et puis le temps s'accélère. Ça, c'est un phénomène, hein, le fin de cycle. Mais c'est vrai pour même pour des systèmes comme par exemple les pacemakers cardiaques, quand les piles s'épuisent, le rythme s'accélère, hein, il ne diminue pas.
C'est vrai pour les bougies, voilà. Quand elles arrivent à la fin, elles brûlent plus fort pendant quelques
secondes. C'est le bouquet terminal.
Mais alors, Nicolas tout à l'heure nous disait, oui, je précise que quand Nicolas a dit bande de cons, c'est un auditeur qui dit excusez-vous auprès des auditeurs, vous avez dit bande de cons, c'est pas aux auditeurs que ça s'adresse, c'est aux non-lecteurs, c'est-à-dire aux gens qui parlent des sujets sans avoir rien lu sur ces sujets.
C'est
voilà.
Comme des start-up, le terme français pour start-up, c'est jeune pousse et il vient du Cantique des Cantiques. Donc de qui se moque-t-on quand on ne sait même pas ça?
C'est ça, il faut quand même.
C'est ça, je veux dire que ce n'est pas une interprétation que je fais, c'est une lecture. J'ai même pas besoin de pousser très loin la complication.
Alors pour
le complot, il n'y a pas de complot puisque tout est dit. De toute manière, en époque où les gens sont tellement stupides qu'il n'y a plus besoin de truquer ou de compliquer les choses. Il n'y a qu'à les dire, ça suffit pour les immobiliser.
En plus, il y a une obligation traditionnelle qui est connue, qui est de dévoiler le comment dirais-je, je cherche le mot, le malin, le grand ennemi, le grand adversaire. Est obligé au dernier moment de se démasquer parce qu'autrement il porte atteinte au libre arbitre. S'il arrive à susciter une faute, un péché mortel chez quelqu'un en se faisant passer pour réellement le bien jusqu'au bout,
c'est impossible.
C'est une atteinte au libre arbitre qui est intolérable. Donc au dernier moment, il faut qu'il se dévoile. Et c'est pour ça que toute singerie, à un moment, au moment ultime, est obligée de se dévoiler comme singerie et de dire eh ben je ne suis pas celui que tu croyais. Et d'ailleurs je suis l'autre. Et d'ailleurs dans la tradition, dans les contes, dans les légendes, c'est de ça tout le temps. Au dernier moment, le gars voit le pied du personnage qui lui parle. Il voit que c'est un pied fourchu ou il voit un bout. Il voit un bout de corde où il sent une odeur de soufre. À chaque fois, il y a ça. Donc la tradition là-dessus est parfaitement claire.
Mais l'automobile me paraît pourtant avoir fait plus de dégâts à la France.
Oui, alors justement, que l'internet. Tu défends l'internet.
Non, mais je ne défends pas. Mais je dis que par rapport à l'histoire de la technique, c'est pas ce qu'il y a de pire. Pour l'instant, par rapport à ce qu'ont pu faire subir les grandes surfaces. Et le cycle de la deuxième révolution industrielle des années 20-30 à la France, quand on relie Vincenot et tout ça, c'est moins pire. Alors on parlait aussi de la logique cyclique. À quel moment peut-on déclarer que l'entropie a commencé ou que la fin du monde a commencé? On peut aussi bien dire que ça a commencé il y a 6 000 ans qu'il y a 6 mois. Hein. C'est des définitions complexes. On défendait l'espace il y a 10 minutes. Alors... Internet est représenté comme une espèce d'espace sacré, ça c'est vrai. Je te cite dans le livre l'exemple de Marc Péché qui se présente comme jardinier du net et qui présente Internet comme un nouveau jardin. Donc au sens de Surouya, le jardin c'est la sagesse, le symbole de la manifestation de la sagesse. On constate qu'on ne peut plus traverser la France et faire 10 km sans croiser des tas de jardins labyrinthiques ou des jardins maïs ou des jardins thématiques. J'étais à Genève récemment, c'était amusant de voir qu'ils font des jardins du toucher et du sentir. Donc on s'amuse beaucoup sur ce thème jardinier actuellement. Et personne ne comprend que ce développement des jardins est allié avec une explosion technologique et que à chaque fois que c'est comme à l'époque du songe de Polyphile au moment de la Renaissance italienne, à chaque fois qu'il y a les jardins à l'anglaise du XVIIIe siècle, révolution industrielle, à chaque fois qu'il y a un seuil qualitatif dans la production industrielle ou humaine, il y a un développement des jardins. Ça, c'est assez
curieux.
Mais je termine. Donc,
pardon, oui.
On diabolisait, enfin on disait bon, effectivement, dans l'ancien temps il y avait de l'espace. Mais moi, j'ai pas pris tellement ce point de vue dans le livre. Mais si on reprend Guénon attaque Caïn en associant Caïn
à Tubal-Caïn, à la.
Oui, oui, ça d'une part, mais surtout il l'associe à l'espace et dit à la fin des temps, l'espace va finir de tuer le temps et donc Caïn va achever de tuer Abel. Alors actuellement, le paradigme qui est développé, c'est un paradigme, comme je dis dans le livre, rétro-futuriste, mais qui a tendance plutôt effectivement à éliminer Caïn, puisque Caïn, c'est tout ce qui est paysannerie ou ancienne économie, brick and mortar, c'est encore plus ancienne économie, c'est-à-dire l'économie paysanne, qui est associée au nationalisme et au meurtre, ou à tous les génocides dont on rend coupable le nationalisme, ou l'ère de l'humanité paysanne. Et donc, on promeut plutôt un modèle abélien, qui est le modèle nomade. et qui est aussi le modèle de celui qui fait brûler de mauvaises graisses d'ailleurs, hein, enfin des graisses qui sont pas forcément saines, on le voit. Alors aux États-Unis d'ailleurs, c'est amusant, actuellement il y a une grosse polémique qui se développe sur le rôle historique des Indiens. Alors on avait tendance à diaboliser l'ère des cow-boys ou l'ère du paysan blanc qui arrive là-bas et qui émigre et qui installe, puis on s'est rendu compte que 90%, alors c'est pour ça que je parlais tout à l'heure quand est-ce que l'apocalypse a pu commencer, 90% de la forêt américaine a été détruite par les Indiens d'Amérique, uniquement avec une banale économie de chasse-pêche-cueillette. Donc,
oui,
ça a déjà commencé, bien sûr. Oui, oui, non, mais comme ça oui, se passe actuellement en Afrique, en Malaisie, n'importe où.
Mais en ce qui concerne les jardins, tu as parlé longuement des jardins, et des jardins virtuels, et du rôle des jardins à chaque fois qu'il y a un basculement dans l'histoire, un basculement technologique ou autre dans l'histoire, on voit effectivement réapparaître se représenter un intérêt marqué pour les jardins, mais on est tout à fait dans le système de la singerie, puisque quel est le premier événement de l'histoire de l'humanité? C'est Adam et Ève chassés du jardin d'Éden. Donc chaque fois qu'un homme, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais chaque fois qu'un homme fait la démarche de recréer un jardin, d'une certaine manière, il est le singe de Dieu. C'est-à-dire qu'il essaye de créer un petit paradis dans lequel il va pouvoir retrouver...
Oui. Mais les moines faisaient pareil au Moyen-Âge avec les jardins. Non, mais le problème, il est lié à aussi, il faut le dire, à un sentiment d'insécurité psychique et physique énorme à notre époque. Au sentiment de la pollution. Donc, moi, j'ai l'impression que les gens aussi reviennent au jardinage, mais pour simple plaisir de voir pousser
c'est certain, pour ça que je disais
parce
bien
qu'on
que...
en est à ce point-là. Mais le drame, en fait, dans Internet, c'est assez particulier. C'est un énorme sujet de conversation pour assez peu de connexions pour l'instant. C'est-à-dire que on en est quoi, 3 millions d'utilisateurs en France.
Là aussi, c'est un aspect intéressant.
Moi, à chaque fois que j'essaye de prolonger, là j'ai arrêté avec eux parce qu'en plus leur moteur de recherche sont nuls, mais avec Wanadoo. Si je me mets à faire de l'internet, je peux en faire 2 ou 3 heures dans la journée parce que c'est un instrument de travail ou d'exploration, de browsing, de butinage. Donc j'y vais avec plaisir. Mais alors pour eux, on a l'impression que c'est énorme. C'est-à-dire qu'un gros utilisateur d'internet, c'est quelqu'un qui en fait entre 5 et 10 heures par mois. Mmh. Ça me paraît quand même ridiculement peu. Alors par rapport à ce que disait François, c'est très vrai que pour écrire un livre sur internet, il vaut mieux avoir des bouquins, des bons bouquins. C'est-à-dire que internet un contenu qui appauvrit la réalité, de la même manière qu'on se rend compte, Stephen King a essayé de vendre son livre en le téléchargeant, enfin en faisant le livre électronique. Les gens ont tendance à se méfier du livre immatériel. De la même manière, on peut se méfier presque du contenu immatériel des informations. C'est-à-dire qu'elles sont plus faibles. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de perte qualitative qui vient avec la perte quantitative ou matérielle, c'est-à-dire que le signe tel qu'il est imprimé, un signe imprimé pour moi a plus de valeur qu'un signe numérique.
C'est validé par la Bible, ce que j'ai tout à l'heure, avec le commentaire de Zohar dit Dieu imprima dans cette matière première, il imprime son sceau, quoi, hein, ses armoiries qui sont, comme disent les rabbins, les 3 dernières lettres dont je parlais tout à l'heure, c'est amen, quoi, hein, c'est-à-dire la vérité, hein, il marque. Hein,
Toute création par Internet est susceptible d'être modifiée par quelqu'un d'extérieur, tout simplement par le jeu des virus, du hacking, enfin des piratages, etc. Et ce qui rend cette création extraordinairement fragile et
c'est une fausse création.
Donc c'est une fausse création.
Mais qu'on parle l'équivalent d'un jardin, il faut revenir à ce qu'est le jardin aussi par rapport à Adam et Ève. En fait, ils ont été mis pour le garder et le cultiver, hein. Il y a 2 verbes. En fait, le jardin, c'est eux-mêmes aussi. C'est le corps qui doit être gardé et cultivé. C'est-à-dire que dès qu'on commence à rentrer dans cette espèce d'univers bizarroïde électromagnétique, le corps humain lui-même et l'intelligence humaine commence à être affecté. Alors, je parlerai pas des effets où on pourrait en parler, qui ont toujours été, jusqu'à récemment niés, c'est-à-dire les effets non thermiques des radiations électromagnétiques. Il est évident qu'elles existent, mais beaucoup sont couverts par le secret militaire. Les Russes ont pas mal publié dessus quand même. Mais le plus angoissant, c'est plutôt le côté hypnotisant de ces ordinateurs qui commencent à transformer Certains enfants, disons, entre 8 et... J'ai quelques exemples comme ça absolument terrifiants. C'est-à-dire des enfants qui ne peuvent plus se décoller des ordinateurs, qui aiment bien la campagne quand c'est vu dans un carré de télévision, mais qui s'ennuient à mourir si vous les amenez dans les plus merveilleux jardins de Versailles. Et c'est intraitable. C'est-à-dire qu'à moins d'un miracle, c'est intraitable. C'est un phénomène qui me fascine, c'est-à-dire que le cerveau droit est complètement pris. Comme Ève, c'est encore la même chose, c'est-à-dire que l'image, c'est ça le danger. Cette image qui est irréelle, fluctuante, évanescente, et en plus, vous avez l'impression que vous serez comme des dieux.
Mais vous appuyez sur un bouton. C'est à propos virtuel,
bien sûr.
Quand le serpent dit à Ève, vous serez comme des dieux, ça veut dire... En fait, virtuellement, je vous assure qu'il va se passer ça. Mais elle n'en a pas de preuve. Quand le Créateur met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur montre tout ce qu'ils ont à leur disposition.
Bien sûr.
Et ils les touchent et ils vivent
mais
avec.
Mais Dieu leur dit, ne cherche pas, t'es encore trop petit, cherche pas à comprendre ce qu'il y a caché dans cet arbre.
Voilà. Tandis que l'autre, il dit, vous allez voir, c'est formidable, essayez ça.
Moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il doit leur montrer quelque chose, comme quand on voit les images incrustées à la télé, où on voit des milliers de chaînes avec des milliers d'images qui effectivement tournent la tête à celui qui veut bien se laisser tourner la tête. Qui détronche complètement. Et une fois qu'on est rentré là-dedans, on est pris dans l'image et on perd complètement le sens du réel.
Oui, mais ce problème est déjà souligné par Don Quichotte ou Madame Bovary ou Bossuet. Bossuet nous demande de nous éloigner des trop nombreuses lectures dans un de ses sermons. Je l'ai cité dans mon livre sur le coq hérétique à propos de la maladie littéraire française. Et il y a également, avec l'intrusion de l'écriture, le fameux mythe évoqué par Platon dans le dialogue Phèdre entre Thamous et Thoth. Thoth qui invente l'écriture et Thamous qui lui dit c'est curieux, c'est le pharaon qui critique le dieu à tête d'ibis et qui lui dit tu es en train de faire perdre qualitativement son cerveau à l'homme. Et donc, chaque technique est là pour accompagner une dégénérescence ontologique de l'être humain.
Ce qui est frappant, c'est que tous les poètes disent à un moment, ou tous les écrivains disent à un moment ou à un autre, mais j'écris avec ma chair, j'écris avec mon sang. Donc d'une certaine manière, tout acte d'écriture, c'est une façon de se priver d'une partie de soi-même et de le mettre sur du papier. Oui. Et quand, effectivement...
C'est valable quand c'est Homère, encore que Homère, c'est un récit raconté oralement, c'est une culture orale. Mais à notre époque, le fait effectivement de donner à lire, là c'est une forme de vacuité quoi, qui se révèle. Là j'étais à un salon du livre à Saint-Étienne, pour ne pas nommer cette belle ville, et où d'ailleurs l'immobilier est à 2000 francs du mètre carré, donc c'est ce que je disais dans
Si vous avez des
oui, acheter à Saint-Étienne ou à Toulon, c'est 1500 francs.
Enfin, la probabilité, c'est que ça va être encore moins cher dans 10 ans.
Ça peut être encore à zéro.
Dans 10 ans, on vous demandera de l'argent pour s'installer dans vos
appartements. Ça, c'est l'avenir de l'espace en France, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien dans tous les sens du terme. Il vaut moins cher qu'il y a 40 ans.
Parce qu'il y a trop de vaurien dedans.
Et donc, c'était amusant de voir les gens passer devant la table. Donc, ils touchent des livres. Il y a une espèce de je sais pas pourquoi il y a une manie, mais au sens fort du mot manie.
C'est une fragilité du lobe frontal, ça.
Ouais. Et ils ont besoin de toucher le livre, de le retourner.
Mais c'est une manifestation à minima de la maladie des débiles qui touchent.
Mais ça n'a rien à voir avec notre conversation, mais.
Aussi, parce qu'on est dans l'ère digitale.
Non, ce que je veux dire, quand on est au restaurant, je sais pas si vous avez remarqué cette chose extraordinaire, vous prenez la carte, il n'y a qu'une carte pour deux personnes, et vous dites, on vous dit, qu'est-ce qu'il y a comme ordre? Il dit, il y a des radis, des harengs et des œufs mayonnaise. Et à ce moment-là, la personne prend la main, prend la carte et vérifie et lit. Vous venez de lui dire ce qu'il y a, mais il faut qu'elle le lise.
Et c'est logique.
C'est curieux.
C'est un micro-syndrome frontal.
Oui, non, mais également le fait de toucher est devenu la dernière preuve qu'on existe.
Voilà,
non,
en même temps, comme les gens qui ont besoin de se sentir,
on est déréalisé tout le temps. Je suis allé voir un film qui s'appelle The Cell, un film américain, une espèce de série B. Qui reprend le thème omniprésent maintenant de la SF américaine, c'est-à-dire mon cerveau n'est pas mon cerveau et quelqu'un entre dans mon cerveau et cherche à me remplacer ou moi je vais m'aventurer dans le cerveau de l'autre. On en avait parlé avec François aussi de ce thème et avec toi.
C'est Malkovich, c'est Matrix.
Ouais, Bing John Malkovich et tout ça, c'est-à-dire que je ne suis plus moi-même. Alors là, on retrouve, parce que moi, je refuse maintenant de voir le mal dans le présent. Je cherche aussi à le voir dans le passé. Et dans le passé, donc, il y a un texte que je cite dans une histoire du miroir d'un prédicateur qui s'appelle Audry au XVIIe siècle et qui dit que à cause du miroir, lui dénonce les femmes parce que bon, c'est la mode de l'époque. Alors justement, je vais repartir un peu sur cette idée baroque parce qu'elle est essentielle. Donc je termine juste sur Audry. Audry dit donc par les miroirs, la femme se vide par ses yeux. Et vraiment, c'est ça. Dans notre époque, on se vide par nos yeux et on est remplacé. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui, à la fin de sa vie, ses seuls souvenirs, c'est ses souvenirs médiatiques. Ou de la même manière que le contenu des conversations privées, c'est essentiellement lié à ce qu'on a vu à la télé ou ce qu'on n'a pas vu à la télé, ou t'as pas vu ci, ou t'as pas vu le football, ou n'importe quoi. Et qu'on a tous un Zidane qui nous trotte dans la cervelle et qui va footballer jusqu'en l'an 17 millions. Bah, de la même manière, on a le flot de purin de la mélodie mondiale qui s'est déversé dans nos oreilles et qui va nous vomir toute cette chiasse pendant des millions d'années encore. Non, mais c'est terrifiant.
Mais en même temps que ça introduit...
On s'est rempli de merde.
On se remplit
d'excréments. Mais comme en Brésil, c'était très bien montré. Ouais,
seulement on les met ensuite.
On se remplit de merde.
Parce que l'émission, par exemple, la manie de d'écrire des milliers de livres, de bouquins, de s'étendre, etc.
Moi, je veux plus écrire, mais
c'est une extension... Finalement, c'est comme la chanson, comme les gens qui mettent leur radio à fond la caisse, etc.
Ouais.
C'est une façon d'étendre le plus mauvais de soi-même vers l'extérieur. C'est-à-dire la bonne éducation aristocratique et militaire, c'est d'être
discret,
souriant au feu, tel Louis XV à Fontenoy, tenue, s'il vous plaît, etc.
Ouais.
Tandis que celui qui se met à bouger, à gesticuler, à brailler,
c'est l'histrion,
c'est le circuit limbique. Le circuit limbique qui parle et qui commence à être répugnant.
Mais on a ce type de dégénérescence à la fin de l'Empire romain, ou même avant la fin de l'Empire romain.
Je pense que les géants casinos...
Je reprends parce que je risque de l'oublier sur ce...
Après, je donnerai la parole aux auditeurs, il y a des remarques extrêmement intéressantes.
Baroque. Et au moment du baroque, donc puisque je parlais des femmes, il y a cette espèce de chasse aux sorcières qui se produit incroyable au XVIIe siècle en France, alors que le Moyen-Âge a brûlé très peu de personnes. Au XVIIe, on brûle 38 000 femmes. Et donc dans mon livre, là, j'ai une hypothèse. Donc le diable dans les traités de Delancre de l'inconstance des anges et des démons est présenté essentiellement comme un mécanicien, un manipulateur. Donc on retrouve la machinerie baroque. Je relisais un livre admirable. Que tout le monde lit d'ailleurs, c'est le livre de cheveux des Français, c'est la Jérusalem délivrée du Tasse. Et dans le... Non mais c'est affolant, je suis désespéré. Il y a une personne sur un million qui lit dans ce pays, c'est affolant.
Et encore, moi je croyais que c'est le dictionnaire de Syria qui était le grand classique des Français.
Non mais ils achètent 99 francs parce qu'ils savent le prix du livre. C'est-à-dire que
l'autre qui fait semblant...
Oui, c'est marqué sur la couverture. Mais il
est intelligent
d'être
d'ailleurs, parce qu'il aurait appelé 120 francs, il gagnait 21 francs.
21 francs plus. Non, mais 99, c'est bon, parce que c'est 99 prix maximum, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt la culture Carrefour, là. Donc, ça c'est mieux. Mais bref, donc, les pauvres femmes sont chassées à cette époque, tout comme à notre époque, nous-mêmes, nous sommes persécutés par... La pensée mécanicienne, une pensée qui est liée au PC, au politiquement correct, et le politiquement correct, c'est le personnel
computer. Oui.
Bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme le Parti communiste, c'est la même chose. Il y a quelque chose avec ce PC ou CCCP. Quand j'étais petit, on voyait l'Union soviétique. En français, c'était CCP. Ils ont juste inversé les lettres. Et ils nous chassent. Et moi, je dis, attention, c'est les machines qui chassent. C'est-à-dire que c'est pas les hommes qui font la chasse aux machines, c'est les machines, comme dans la nouvelle de Borges, les couteaux qui s'affrontent par l'intermédiaire de deux duellistes à plusieurs générations, c'est les machines qui nous chassent. Et le baroque, c'est le développement de tout ce qui est optique, et là on est en plein développement de l'optronique, et il y a une chasse au politiquement incorrect qui n'entre pas dans Macworld, et tout ce qui n'entre pas est foutu à la corbeille. Donc ça me paraît extrêmement important de voir que chaque développement technologique suppose une chasse aux sorcières. Je parlais de Cain et Abel, une évidence pour l'agriculture, et c'est une évidence au moment de la guerre des religions, puisqu'elle apparaît en même temps que l'imprimerie. C'est une évidence avec la révolution industrielle.
L'électricité, la machine à vapeur aussi.
Bien sûr, avec le racisme et le nationalisme qui se développent en même temps que ces atrocités, en même temps que le chemin de fer. Et on arrive aujourd'hui avec ça, la diabolisation, par exemple, des Serbes. s'explique ça. De Brel avait compris, puisque donc il est expert en médiologie, quand il avait fait ses fameuses chroniques dans le Monde d'Atier, par le fait que ça n'entre pas dans l'ordinateur des Américains, ça. Et comme l'Amérique, c'est le pays virtuel par excellence, puisque c'est le pays qui a dévoré les espaces, qui continue de le faire en étendant à l'infini les villes, et qui n'a développé que les moyens de transport. Et toute l'histoire de la bourse aux États-Unis, c'est l'histoire du transport, c'est-à-dire de la négation, de l'anéantissement, de la Shoah de l'espace, si j'ose dire. De la même manière que la Shoah, c'est la transformation des corps en mémoire. Bon, ben là, l'Amérique, c'est la négation totale permanente de l'espace. Je dis même pas ça dans une perspective polémique, j'en ai plus rien à faire, tu le sais très bien. Donc c'est simplement, fin du 19e, c'est les lignes de chemin de fer au début de la cotation du Dow Jones. Alors j'ai pas besoin d'aller chercher très ésotérique, ça y est dans le quid. Hein. Donc en 1880, où il y a beaucoup de choses.
Énormément de choses.
Mais bon, en 1890, le Dow Jones est créé, il y a 10 lignes de chemin de fer. Dans les années 30, c'est les fameuses Big Three, c'est-à-dire General Motors, Ford, Chrysler. Puis aujourd'hui, c'est quoi? C'est Cisco, Microsoft et Oracle, encore un nom aussi prédestiné. Et c'est dans ce contexte que on a cet anéantissement de l'espace qui est célébré par Abel, qui lui représente le temps. Mmh. Ce qui permet, moi, de liquider un peu mieux mes comptes avec Guénon, d'ailleurs, hein, puisqu'évidemment, il défend Abel, mais il y a deux ou trois choses à dire sur Guénon un jour. Enfin, je le ferai peut-être, mais je crois pas.
Alors, les auditeurs ont des choses à dire. Et vous allez voir, il y a beaucoup de réflexions qui sont fort intéressantes.
Alors, si les gens veulent m'écrire, ils peuvent m'écrire sur un de mes emails. Alors, c'est nbional. Je me suis gouré, je voulais dire nbional, puis nbional, alors ça fait bionique, donc pourquoi pas, c'est à la mode. nbional@hotmail.com.
Donc, ils peuvent m'écrire.
nbional@hotmail.com. Pardon.
Voilà, le silicium qui sert à tous les microcircuits de l'informatique, c'est du sable.
Ouais.
Puisque exact, vous parliez de la voie du sable vrai, tout
c'est
à l'heure.
Ça, exactement.
Les microchips. Un auditeur, le jardin peut être aussi la représentation d'un labyrinthe.
Le baroque avec les sabliers, hein,
oui, oui.
La contemplation du sable.
Hein. Oui.
Le jardin peut... N'interrompez pas les auditeurs, s'il vous plaît, monsieur. Le jardin peut être aussi la représentation d'un labyrinthe qui ne préexiste pas dans l'homme, qui marche, mais qui est construit à chaque pas que le sujet... par le sujet qui tente de s'orienter, et dans l'espace et dans la pensée. Ça, c'est une très très belle idée, ça. Le labyrinthe qui se crée chaque fois que l'homme fait un pas.
Oui, c'est borgésien encore. Ouais, alors, je pensais à... Parce qu'il y a des mythes qui naissent avec les techniques. Et je me dis, en fait, bon, le plus fort, peut-être, d'autant qu'il a une écriture, justement, sablière, ce serait Borges, qui a peut-être le mieux compris, parce que, justement, il était nourri de cabale, comme François, qu'on allait vers ça, vers, justement, ces labyrinthes et ces jardins aux sentiers qui bifurquent, parce que c'est vraiment ça, Internet.
Une auditrice est le singe de Dieu qui a voulu le monde abstrait d'Internet. Un auditeur. Vous dites, l'espace n'existe plus, maintenant on vous vend du temps. Ce n'est pas faux, et si je comprends bien ça, vous allez voir, c'est remarquable, je trouve. Ce n'est pas faux, et si je comprends bien, on ne pourra pas nous vendre Dieu, puisqu'il est immobile et donc en dehors du temps.
Exactement. Voilà.
Post-scriptum, le temps existe-t-il? On n'a pas le temps de répondre.
Il faut reprendre ça dans Saint-Augustin qui a des pages là-dessus remarquables, oui, et
oui.
Maître Eckhart.
Oui, 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 oui. Et c'est tout. Sinon, voilà. On file vers la dissertation de philo de terminale.
Exact.
Et là, j'évite, moi, les questions sur le temps, parce que c'est vite. Voilà. C'est vite du Heidegger de bistrot. Hein. Ouh là là.
À propos de l'espace Internet, je souligne que l'espace Internet n'est pas un espace euclidien à trois dimensions. Il serait plutôt à un. Alors j'arrive mal à... Il renvoie plutôt...
C'est un espace logique, hein,
voilà, strict. À une vaste topologie où la distinction entre l'intérieur et l'extérieur est indistincte. Je renvoie à la bande de Moebius,
oui,
mais... où l'on passe indistinctement de la face externe à la face interne sans s'en rendre compte. Forcément, il n'y a qu'une face à la bande de Moebius, donc elle est à la fois externe et interne.
Absolument.
Le topologique est à l'image du vivant et sans doute aussi de la pensée, mathématiquement vôtre. C'est vrai. D'ailleurs, il y a quelque chose de la bande de Moebius dans les rubans ADN. Donc, si on ferme un ruban ADN, on doit arriver à une bande de Moebius.
Et c'est quand même quelque chose de tordu, hein, la bande de Moebius.
Ah, c'est fascinant.
Mais c'est tordu au sens où on dit qu'on a a twisted spirit.
Oui, c'est absolument tordu. D'ailleurs, c'est tordu parce que c'est tordu.
Et puis ça fait deux anneaux.
Et ça fait deux anneaux. Et si on coupe
l'un dans l'autre,
on arrive à des choses effrayantes. C'est comme les suites de Fibonacci.
Comme les suites de Fibonacci.
Un auditeur cite le vers de Sully Fenton.
C'est marrant parce que vous parlez de Moebius. Moi, j'évoque beaucoup le terme de la bourse dans le livre. Moebius, c'est le nom du stratège de Templeton, qui est une grosse boîte boursière américaine. Et à l'instant, tu parlais de Fibonacci, et justement, en bourse, on fait des analyses graphiques à partir des ratios de Fibonacci.
Ah oui, c'est normal, tout fonctionne à partir des ratios de Fibonacci.
Non, mais là, on est en pleine économie magique à base mathématique.
Sauf que Fibonacci, c'est la preuve mathématique de l'existence de Dieu. Ça, c'est quand on se met là-dedans, on est exalté par la splendeur de la découverte. Je sais pas, enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc un auditeur cite une hybridum, qu'est-ce que cela qui n'est pas éternel, et demande si toute interprétation nécessairement dans le temps n'est pas victime diabolique de l'imaginaire de tout interprétant. Mais on pourrait dire ça.
Mais ça se retourne, c'est un paralogisme qui se retourne contre la
propre. On va terminer en doc philo, attention.
Bon. C'est amusant une fois de temps en temps. On ne peut pas tout le temps interviewer des voyants, on est obligé de temps en temps de faire des choses un peu ennuyeuses. Existe-t-il un lien entre les on change de sujet, un lien entre le vocabulaire maçonnique et Internet?
Oui, bien sûr.
Oh, c'est clair.
Je les cite dans le livre. Il y a la chaîne,
la chaîne d'union,
les portails aussi.
Les portails, oui, bien sûr, la connexion, les colonnes, on les retrouve.
Les codes, les mots de passe.
Les mots de passe, bien sûr. Non, il y a.
On se fait tuiler quand on entre sur Internet. Quand tu veux aller sur sur ta messagerie, sur tes emails, tu es obligé de te faire tuiler.
La maçonnerie se développe en même temps donc l'optique et que les sciences mathématiques et que la physique prémoderne à l'époque newtonienne, au moment de la révolution newtonienne. Et là, actuellement, il y a effectivement, c'est pour ça que j'appelle ça nouvelle voie initiatique, un nouveau discours, ne serait-ce que le terme « se connecter » est un terme complètement mystique,
oui,
parce que
oui,
c'est la
oui,
dévécoute
oui.
Des
kabbalistes.
Des grands kabbalistes, donc ça joue là-dessus. Alors, le terme de toile et de réseau existe. Malheureusement, j'ai pas pris le livre. J'en parlais avec François, chez Rabbi Isaac Chani, au XVIe siècle. Donc, il parle du monde comme une immense toile et d'un réseau avec des canaux et des jardins.
Mais ça, c'est un thème absolument central. Les Tsefirot, c'est un thème central de la Kabbale et de l'arbre des Sefirot qui est relié par 22
canaux. Et le canal, on l'a évidemment chez Job. Ça, apparemment, j'ai fait une petite partie sur Job parce que ça me paraît essentiel. Hein. On peut lire
Job, c'est essentiel.
J'aurais pu expliquer Internet uniquement à partir de Job.
Mais
d'ailleurs, on peut tout expliquer.
On peut tout expliquer à partir de Job.
Y compris la maladie de la vache folle,
y compris la pelade.
La pélagre.
Pélagre.
Et l'acide gras marin.
Alors, Nicolas, ça c'est moi qui l'ajoute, un auditeur cite André Suarez, et moi j'ajoute qu'au lieu de dire bande de comptes, tu aurais dû dire « Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre si l'homme tourne décidément à l'automate. S'il lui arrive de ne plus penser que selon des images toutes faites d'un écran, ce termite finira par ne plus lire. » Toutes sortes de machines y suppléant, il se laissera manier l'esprit par un système de vision parlante. Tout y sera, moins l'esprit, cette loi est celle du troupeau. Ça, c'est admirable. Il écrivait ça en 1920. C'est la description de la télévision et de l'Internet.
Oui, mais j'ai commencé mon livre sur Bouvard et Pécuchet parce que eux, ils regardent pas la télé, ils sont très cons et ils n'arrêtent pas de lire. Donc il y a un petit problème.
Donc, on n'est pas abrité, on n'est pas.
Et ils cherchent, comme tous les gens, à s'informer sur tout et ils sont convaincus qu'ils ont raison sur tout, Bouvard et Pécuchet.
C'est vrai que c'est deux personnages.
Oui, c'est extraordinaire.
Admirable, on a l'impression.
C'est le moderne. Et d'ailleurs, ils commencent par le jardinage dans leur propriété dès qu'ils ont fait leur héritage.
Aujourd'hui, ils
vont vers l'ésotérisme, ils s'intéressent aux mathématiques, au tourisme, ils font du tourisme. Alors là, on est en plein tour. Oui, à tout. Donc c'est exactement comme le nimbus d'aujourd'hui qu'on rencontre et qui a fait 40 expériences. J'étais au monastère de la Grande Chartreuse. Il faut que je le dise parce que ça, je l'ai pas dit. Qu'il y a des profanations au monastère de la Grande Chartreuse. Je sais pas si on en a parlé à Courtoisie. Je t'en ai parlé depuis un an. Et qu'elles me paraissent revêtir un caractère de très grande gravité.
Ouais.
Mais bref, donc j'étais au monastère de la Grande Chartreuse et je croise une bonne femme, il n'y a pas d'autre mot, qui me dit, parce que bon, moi j'ai mes entrées au monastère pour des raisons inavouables, elle me dit, est-ce qu'on peut faire une retraite? Je lui dis, mais enfin madame, on n'est pas à Disneyland. On se calme. Les gens, ils demandent dans un monastère, tiens, si j'ai passé 3 jours pour take a break in the rush, and to change my mood. C'est insupportable, c'est ce tempérament de consommateur de religion. Et le gars, il va dans sa grande surface, entre le flanqué du Dalai Lama, du séminaire affairiste de
Kanagogi,
de Paco Rabanne, et tout ça. Et puis il dit, hop, je vais jouer là-dessus.
Alors, il y a deux demandes de diagnostic, mon cher docteur. Vous savez que le principe, c'est quand un médecin est invité à dîner, en général, on en profite.
Des chourvoyants consultatia.
Des chourvoyants consultatia économique.
Konieczna.
Alors, comment qualifieriez-vous l'acte intellectuel et psychologique qui consiste à se référer, à référer une actualité technique, par exemple Internet, à une tradition préexistante? Est-ce que c'est une maladie?
C'est une perversion.
Perversion. Voilà, t'es servi, Nicolas. Tu es un pervers polymorphe, bien entendu.
C'est la perversion originale.
Alors, est-ce que le malin renvoie à une structure psychotique et plus précisément à une volonté paranoïaque?
Alors déjà,
ça, c'est un
complexe,
sujet d'émission,
parce que
ça.
Que psychotique, ça veut dire ça veut dire qu'on est fou, et paranoïaque, ça veut dire la même chose en grec. Ça renvoie de toute façon à une perturbation des facultés mentales, ça c'est clair.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui posent des questions au rabbi planté.
Présent.
C'est vrai. Hein, le rabbi pourrait-il nous confirmer que le triple vav d'internet correspond, le triple W d'internet c'est... correspond bien à une lettre triplée de l'alphabet hébreu qui en même temps représente le 6.
Ken, mon fils.
Ça veut dire oui, mon fils de béni mémoire.
Ça y est, sur la couverture de mon livre, hein, mais bon, c'est pas grave.
Oui, mais ah bah, ils l'ont pas lu, justement. Ils vont le lire maintenant. Ils vont se...
Non, mais les gens lisent pas.
Mais si, celui-là, ils vont le lire. En plus, il est pas juste, parce que à la suite de la dernière émission, j'ai reçu un wagon de commandes au Libre Journal. Donc, vraiment, c'est pas chic de dire ça. Tiens, pour te punir.
Non, mais il y a que dans ce...
Makash Bonal, dit un auditeur. Les Américains n'ont rien inventé. Simplement, ils ont copié ce que nous avons inventé 20 ans avant eux en l'améliorant à peine, le Minitel.
Oui, alors le problème du Minitel, ce serait intéressant parce qu'en fait, comme toujours dans la parodie dingue, la France a une longueur d'avance sur tout le monde, y compris d'ailleurs sur le politiquement correct. Et le Minitel donc, a été inventé par un savant français qui est parti aux États-Unis parce qu'il n'était pas d'accord sur le développement ultérieur. Il s'appelle Louis Pouzin et il était responsable d'un projet qui s'appelait Cyclades. Et il est parti dans la Silicon Valley. On sait qu'il y a 500 000 Français qui se sont barrés depuis 5 ans, depuis Juppé, et il y en a beaucoup qui sont partis effectivement aux États-Unis quand ils ont de grandes compétences techniques. Mais cette histoire de Minitel est importante parce que tout ce qu'on appelle les chats, les forums, les newsgroups, ça existait déjà sur le Minitel en France il y a 20 ans. Et ça existait au sens où le patron de Vis-à-Vis parle d'une initiation collective ou d'initiation de masse. Parce que avec Internet, on est rentré dans l'idée que il faut être complètement au courant, au sens fort du terme courant, et il faut toujours se tenir informé, et il faut toujours être capable d'utiliser de nouvelles techniques. Donc c'est une initiation permanente.
Voilà, on n'a évidemment pas fait le tour de la question, mais maintenant l'heure a tourné complètement, et donc on va être obligé de se séparer à mon grand regret.
De dire les petites annonces.
Et oui, de dire les annonces, bien sûr. Alors, l'Internet, nouvelle voie initiatique, c'est un livre intéressant, hein, François.
Ah oui,
c'est
tout à fait,
bon
hein.
Bouquin de
Renan Lampel. Il a été longuement mûri par Nicolas, on en a discuté pendant longtemps. Donc
c'est un beau fruit, et c'est un livre intelligent, mais ça n'étonnera personne. Donc si vous voulez lire, il est dans toutes les bonnes librairies, quelques mauvaises probablement, et de toute façon...
Commandez-le dans les bonnes, par exemple à la Procure, c'est très bien, éviter Gibert et la Fnac, ça me fera plaisir.
Gibert Joseph, c'est très bien, Gibert Joseph.
Donc, ma petite annonce, allez-y. Si vous voulez bien. Vous pouvez vous procurer la Bible trahie de Daniel Raffard de Brienne à la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, où l'auteur dédicacera le 3 novembre son livre à partir de 16h, ou vous pouvez le commander par correspondance aux éditions Rémy Perrin, 46 rue Sainte-Anne, Paris 2e, au prix de 98 francs franco. Et puis depuis 1963, chaque année, une prière spéciale est dite sur la tombe du colonel Jean-Bastien Thiry pour tous ceux qui sacrifièrent leur vie à la défense de l'Algérie française. Donc vous êtes invité à cette cérémonie qui aura lieu le samedi 11 novembre à 15h au cimetière de Bourg-la-Reine, dans le 92, j'avoue que je ne sais pas trop, ces scènes...
Je crois qu'il y a la tombe de Léon Blum, c'est pas loin d'ailleurs.
Et puis alors, dîner débat exceptionnel de soutien à la préférence nationale sous la présidence de Catherine Maigret, maire de Vitrolles en Provence, le mardi 14 novembre, à 20h, au Novotel Vaugirard, 257 rue de Vaugirard, Paris 15e.
Alors ça, je pense qu'il faut, il doit falloir quand même réserver ou prévenir. Je vous propose de téléphoner donc au numéro 01 56 56 64 34, 01 56 56 64 34,
pour savoir comment vous pouvez réserver votre place au dîner du mardi 11 novembre 2000 à 20h au Novotel Vaugirard, sous la présidence et la présence effective de Catherine Maigret. François Plantet, merci beaucoup, merci d'être venu. À bientôt, on fera une émission sur l'alimentation dans quelques temps avec vous, si vous êtes d'accord. Nicolas Bonnal, merci. Je vais quand même te donner t'envoyer la flèche du pas.
La flèche empoisonnée, comment dire,
pied de l'âme. Un auditeur dit, quand on pense que 500 000 Français sont partis dans la Silicon Valley et que Bonnal est resté, on n'a vraiment pas le pot.
Je pars justement.
Pas dans la Silicon Valley. Non. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout avec patience et gentillesse quand même, malgré tout. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lubekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 1er novembre 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 2 novembre.